Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 22 novembre 2008. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs, en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le dessin animé que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.tk. Vous écoutez FMR sur 4...
Qu'est-ce que tu as à te foutre de la gueule du site web de l'émission?
Je ne me fous pas de la gueule du site web.
Mais j'aurais d'accord,
bien...
ok. Bon,
j'aurais bien aimé avoir une voix avec des...
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Page et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Nous avons donc des invités. Sébastien Laurence, bonjour.
Bonjour Xavier.
Bonjour Rafi. Bonjour. Ah, excuse-moi, c'était pas le bon micro. Ben voilà, on est en direct et c'est le bazar et on est en direct. Il est midi. Et JB m'a fait chier la semaine dernière, donc il m'en a voulu sur le site, c'est ça?
Oui. Ben oui, mais il faut savoir qu'il y a un contentieux. Hein.
Il y a un contentieux. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. On y va. Puisque c'est comme ça. 1, 2,
planté.
1, 2, 3. Et top, le nouveau site de la radio, de l'émission est lancé, supplementweekend.fr. En direct, c'est
un
pas
vrai
beau, la
site,
vie
ouais.
Un vrai site, hurra, et fait, et tutti quanti, et tout le bazar. D'ailleurs, je vais publier un billet sur le site de la radio. Quoique non, Thomas, il a un Mac, il peut le faire. Moi, je suis en train de mixer et tout le reste. Alors, aujourd'hui, c'est une émission qui est triplement spéciale, et pour cause. Primo, c'est la numéro 178. Ça vous dit rien pour vous, mais pour moi, ça signifie beaucoup. En 95, j'avais lancé donc une émission sur la bande dessinée qui s'appelait Indigeste. Et elle s'était arrêtée à l'émission numéro 177. Ben maintenant, c'est la 178e du supplément week-end. Le temps passe vite. Ça m'a
déjà
fait bizarre tout d'un coup de me dire « Ah ouais, quand même !»
5 ans.
Ah putain, maintenant, c'est indigeste, ça représente beaucoup moins que le supplément week-end. Ça,
ah ouais, ta précédente émission, maintenant, c'est de la merde. Hein.
Oui, si on veut. Parfaitement, d'accord, ok. Cette semaine aussi, on vous a dit que donc la semaine prochaine, on sera au Toulouse Game Show. Sébastien et Rafi sont justement là pour parler de leur petit bébé qu'ils organisent donc la semaine prochaine. C'est à Balma et
à la Beige.
Oh putain.
Il y avait toute une série de gags avec le mot Balma tout à l'heure. Vous avez coupé son effet. Non, c'est pas vrai.
non, mais il y a ça qui est faux.
Ah oui.
Samedi 29 et dimanche 30 novembre, à Balma, c'est le Toulouse Game Show, un festival autour des jeux vidéo, des mangas, Samedi 29 à midi, le supplément week-end est en direct au TGS à Balma. Ça va être difficile. Plus d'infos sur radio-fmr.net. Bon, maintenant, il suffit un peu. Ouais, bon, pour la refaire, voilà, ça m'a
non, mais c'est
les nuits blanches.
C'est bien parce que les auditeurs aiment avoir les making-of, parce qu'il faut savoir que Xavier, en bon professionnel qu'il est, il avait quand même enregistré une précédente version de la bande-annonce avec, il s'est trompé de date. Alors, il reçoit mon mail ce matin, il dit « Ah mince, comme un con, j'ai supprimé le projet de montage ». Donc il a du tout réenregistré ce matin, et il a mis Balma.
Bien joué.
C'est... Ah, on ne fait rien de bon dans la précipitation.
C'est... Désolé, on est professionnel ou on l'est pas. Donc, on va passer sous silence ce malheureux épisode complètement catastrophique. Donc, on va parler peut-être du Toulouse Game Show, qui est quand même le principal sujet pour lequel on a fait venir nos amis sur le plateau, enfin plutôt les organisateurs. Sébastien donc et Rafi. Sébastien, bonjour, quel est ton rôle ?
Je suis le gérant de la société TGS Événements qui organise donc le salon de Toulouse Game Show.
Rafi.
Alors moi en fait je suis le webmaster du site internet, hein. Je n'organise pas le salon en lui-même.
Mais qui est malade, hein,
qui est malade. Voilà, je suis malade.
C'est qu'il a une voix un peu grave. En fait normalement c'est plutôt... C'est pas Barry White. Hein.
Voilà. Alors c'est quoi le Toulouse Game Show? C'est quoi? C'est un clone cheap du Tokyo Game Show ou une version moins parisienne du Japan Expo?
Ah ben c'est un peu tout en fait, c'est un peu tout ce qu'on veut y voir. C'est un rassemblement de passionnés surtout sur différents univers. Alors effectivement on se rapproche du Japan Expo par rapport au manga et par rapport à la culture asiatique, mais on se rapproche aussi du Tokyo Game Show avec tout l'aspect jeu vidéo qui est une part importante du salon. Et en plus, nous, comme on est vraiment des passionnés et des geeks, et qu'on est fan de science-fiction, des créatures, de l'espace, de space opéra, on a également mis un gros pôle science-fiction en fait, où on fait venir des acteurs, des décors de ciné, enfin des choses comme ça.
D'accord.
Alors Sébastien, une petite question, pourquoi t'es-tu lancé dans l'organisation de ce TGS? Plusieurs réponses.
Oui, je sais, je suis à la bourre.
Réponse A, pour concurrencer les Nippons avec leur Tokyo Game Show tout pourri. Réponse B, uniquement pour le cosplay, quand tu avais 15 ans, tu regardais l'AMU et tu te disais, elle doit être vachement bonne en chair et en os. Réponse C, parce que tu sais que tous les otaku de la région vont te manger dans la main après ça. Ou réponse D, en fait c'est surtout un prétexte pour accueillir ton idole, Bernard Minet.
J'hésite. Donc, ABCD. Non, on l'a fait surtout parce qu'on avait envie quoi. C'est quand on a une passion, en fait, on a envie de la partager avec les autres et le plus beau prétexte pour la partager, c'est de créer un salon. Et donc voilà, on l'a créé.
C'est quand même un grand barnum. C'est quand même une organisation qui est assez importante vu la taille de l'événement. Il faut quand même avoir des épaules plutôt larges quand même pour le faire. C'est quoi ton parcours pour y arriver, le cheminement pour arriver à ça? Tu as fait école de commerce comme la plupart des animateurs télé ou tu as acheté plein de mangas quand t'étais petit?
Alors pas du tout. Enfin comme tu peux le constater, j'ai les épaules larges quand même. Non. Enfin il faut savoir que dans le métier d'événementiel, ce qui est très important, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et je pense que même quelqu'un qui est sans diplôme, puisque moi je suis sans diplôme, je n'ai pas honte de le dire.
Comme Drucker.
Exactement, mais il y en a comme ça. Si tu nous écoutes, Michel. il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est vraiment une dépense de temps et d'énergie qui est assez faramineuse. On dort pas beaucoup, on dort pas beaucoup. Sur le salon, on mange pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris des réserves avant. mais enfin, moi, le petit conseil que j'ai à donner aux gens qui veulent créer des événements, alors que ça soit à toute échelle, ça peut être du petit rassemblement à un gros salon, c'est d'y croire, c'est de pas s'arrêter sur le fait qu'on va vous dire oui, mais il y a de la concurrence, oui, mais ça va être dur. Quand on veut, on peut. Voilà.
D'un autre côté, t'es pas seul. Heureusement, il y a toute une équipe autour de toi. Alors, tu as dit que c'était une entreprise. Quels sont tes associés?
Alors, effectivement, TGS événement, c'était au départ, on était deux, hein, deux associés. Donc, il y avait Frédéric Devez et moi-même, sur lequel s'est rajouté Romain Duchesne, qui est une personne qu'on connaît depuis très longtemps et qui était intéressée par le projet, sachant que chacun a sa petite spécialité, en fait. Hein. Romain s'occupe plutôt de tout ce qui est communication et contact avec les gros partenaires. Frédéric s'occupe plutôt de l'aspect financier du salon, tout ce qui est montage financier, et donc moi je m'occupe plutôt de la création artistique. Voilà.
Et pourquoi finalement avoir créé une entreprise plutôt qu'une association? C'est parce que c'est hyper rentable, goodies, ou parce que finalement association c'était pas assez sérieux pour aller démarcher certains sponsors et certaines mairies?
Voilà, donc alors ça c'est une très bonne question. C'est bien, on me la pose pas souvent celle-là. Société, tout simplement, parce que quand on va voir un responsable d'une grosse société, d'un gros sponsor, quand on lui dit qu'on est une association et qu'on va lui demander massivement de s'investir, alors que ça soit en argent ou en moyens humains, hein, c'est de l'argent quand même, hein, il est plus simple de lui dire, voilà, nous on est une SARL, on a un capital social qui est quand même assez important, vous prenez un risque si vous venez à la première édition, l'année dernière, mais nous on en prend un aussi, quoi. Donc on est sur un niveau d'égalité et de transparence avec les sponsors. Maintenant, sur l'aspect mairie, justement. Alors, effectivement, on a fait beaucoup de démarches auprès des mairies, auprès du conseil régional, général. Alors, justement, je vais avoir l'occasion de m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas l'occasion
Tu peux y aller. On a une radio d'opposition municipale. Alors, je suis la dernière émission de droite dans cette émission.
Alors, écoute, il faut tout avouer, moi je suis du modem. Voilà. À moins, on est
passé à la DSL depuis.
Bon. Non, mais moi j'ai trouvé des gens de droite comme de gauche qui étaient vraiment très sympas et avec qui on a pu discuter vraiment par rapport au projet. Mais malheureusement, on n'arrive pas à décrocher quoi que ce soit, aucune aide de nulle part. Donc il est important de savoir que le TGS Toulouse Game Show n'est subventionné par personne. Ce sont que des fonds propres. Les exposants payent leur stand, les visiteurs payent leur entrée et c'est ça qui paye le salon en fait, hein, tout simplement.
Rafi, t'es arrivé dans l'aventure comment ? T'as vu de la lumière ?
Non, en fait, bon, je connaissais Sébastien un peu avant la première édition, en fait. Et donc cette année, je lui avais proposé un projet, donc de le suivre et de faire un reportage sur l'organisation du TGS, tout ce que les gens ne voient pas, en fait. Ils viennent au salon, mais ils savent pas du tout comment ça s'organise, ni rien du tout. Et donc je lui avais proposé ce projet, qu'il a accepté, hein, gentiment. Et donc on fait des interviews, on va voir les associations pour voir qu'est-ce qu'elles vont organiser, ce genre de choses, quoi.
Sébastien, tu as rencontré, puisque tu travailles dans le magasin Player and Game, tu as côtoyé pas mal d'allumés, de joueurs qui t'ont sûrement donné envie justement de monter le TGS. Ça a été quand le déclic en fait, qui t'a poussé à te lancer
En fait, oui, enfin, disons que nous on baigne là-dedans depuis très très longtemps et c'est vrai que ça, enfin, tout le monde avait envie, hein, que ça soit bien clair, toutes les personnes à qui on a parlé du projet avaient vraiment envie que quelque chose se passe, un événement d'envergure se passe sur la région. Maintenant, on n'a pas eu de déclic en particulier. Je pense que le déclic, ça a été vraiment le fait de la rencontre avec Frédéric Devez qui avait un projet de monter un salon sur les jeux vidéo. Moi, j'avais un projet de monter un salon également plutôt jeux vidéo manga. Tout seul dans notre coin, on avait un peu peur à se lancer, on était juste au bord du précipice, on s'est dit on saute pas, et finalement on est arrivés tous les deux à côté et puis on s'est poussé chacun, on est tous tombés quoi, en fait, voilà. Donc du coup on a foncé, mais ça a été vraiment cette rencontre qui nous a permis de lancer le projet.
Est-ce que vous sentiez au départ qu'il y avait vraiment une envie, un besoin du public pour avoir ce genre de manifestation ou...
Ah ben il vaut mieux. Il vaut mieux quand on se lance dans un événement comme ça. Un événement comme le TGS première édition, ça coûte quand même 110 000 euros à peu près. Donc il faut quand même avoir une étude de marché quand même derrière pour vraiment voir si ça va être au moins équilibré. Donc les gens qu'on a rencontrés, on regarde beaucoup, on va sur internet, sur pas mal de sites pour voir s'il y a vraiment de la demande et si les gens vont venir. On a essayé de faire un condensé de tout ça, de ce qu'ils demandaient, et on l'a transformé en salon. Mmh. Voilà.
C'est quoi vos relations avec les autres organisateurs ? Parce que c'est quelque chose qui est relativement vieux. Hein. Il y a eu le Cartooniste à Toulouse qui a été fondé en 91, si je me trompe. Il y a Japan Expo donc qui a fait la 9e édition l'été dernier. Quelles sont vos relations avec les autres organisateurs ? Ils vous voient comme des concurrents, comme des relais ?
Alors, je pense que c'est plutôt des concurrents par rapport à Japan Expo, puisque la preuve, ils viennent de s'installer à Marseille en février, hein, puisqu'il y a un Chibi Japan Expo Marseille. Mais nous, on prend ça, on est très très serein par rapport à ça. On n'est pas dans un objectif de les concurrencer. Enfin, ils étaient sur Paris, on était sur Toulouse, donc jusque-là, il n'y avait pas de souci. Moi, comme je le dis, je le dis en direct avec vous, s'il y a des gens de Japan Expo ou d'autres salons qui se présentent sur le salon, c'est avec plaisir que je les recevrai et qu'on discutera.
Vous discuterez d'échanges de licences et tout ça.
Oh non. Ça, je pense que de toute façon, il y a des manières de travailler, des manières d'accueillir les gens. Et lorsqu'on a des contacts et qu'on crée une relation, une complicité avec n'importe qui, que ce soit une association, une radio, un éditeur, à partir du moment où les gens sont très clairs, je pense qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Et après, c'est très dur de la déloger.
La première édition s'est déroulée dans un cadre, on s'est dit c'était quand même relativement grand, et malgré tout c'était pas assez grand. Il y a eu vraiment beaucoup de public. On en a parlé, mais les autres médias locaux, les médias nationaux, comment ils ont parlé de cette première édition avant et après ? Est-ce que vous avez été soutenu de ce côté-là ?
Alors, on a eu quelques articles de presse dans certains journaux locaux, que ce soit d'ailleurs du journal classique ou du journal économique, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop été suivi. Au niveau de tout ce qui est communication télé, on a eu beaucoup de mal à faire venir des chaînes télé, au moins à faire passer des communiqués de presse pour qu'ils puissent être informés, en fait, de l'événement. On a réussi à en faire bouger quelques-unes, d'ailleurs des chaînes dont on pensait qu'ils ne viendraient pas, Sci-Fi, la chaîne de la science-fiction qui est sur le câble. Cette année, on est content, on a également une personne de No Life qui vient, en fait. On a un partenariat avec Game One, on a un contrat de publicité avec TLT, donc, enfin. Mais c'est vrai qu'au niveau rédactionnel, on sent bien la différence. On sent bien la différence quand on est en contact avec la partie publicité et la partie rédactionnelle. C'est-à-dire que généralement, ces deux parties.
Les deux sont encore séparés, même à Télé Toulouse.
Enfin, maintenant, je ne sais pas. Mais ça l'était, oui, en tout cas, ça l'était. Nous, on a fait l'effort. Alors, nous, on est prêts à jouer le jeu, voilà. L'année dernière, c'est vrai qu'on n'avait pris aucune campagne de publicité sur TLT. Cette année, on leur a dit, ben, on soutient Télé Toulouse, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est qu'ils sont mal, hein, pour ceux qui sont pas de la région en ce moment, donc la chaîne locale est en redressement judiciaire.
Voilà, donc nous on leur a donné des sous pour la campagne de publicité qui est en cours de diffusion actuellement. Et on espère que, non, a priori, c'est bien parti pour avoir un peu de rédactionnel. C'est dommage quand même qu'on doive en arriver au fait de devoir dire je vous achète de la publicité pour que vous veniez. Qu'il n'y ait pas cette. Sur un événement comme le
nôtre. C'est un peu de la publi-information, quoi. Qu'ils ont dit on ne fait pas de traitement si on ne vous achète pas.
C'est plus fin que ça.
On ne parlera pas du hold-up à la Banque P si Banque P n'achète pas des espaces chez nous.
Voilà. C'est un peu.
Parce que quand même, il y avait du monde, il y a eu combien d'entrées?
On a fait 11 000 visiteurs sur 2500 mètres carrés, tout le monde s'est fait peur l'année dernière.
Ah ça?
Cette année, on attend entre 15 et 18 000 personnes, donc on n'est pas un tout petit événement. Alors je suis d'accord qu'on n'est pas non plus. C'est pas Johnny au Parc des Princes, hein. Mais bon, enfin. Sans...
Le parc, c'est has-been.
j'ai cru Johnny, j'ai eu peur. Voyons. Mais. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Les relations avec les médias, c'est compliqué, mais de toute façon. Nous, on se dit que c'est du bonus. On prévoit ça. Mmh. Et s'ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, on a de toute façon un plan d'attaque autre.
Mmh. On a dit que le Toulouse Game Show était donc surtout dans le titre axé autour du jeu vidéo, mais loin de là, puisque en fait, dès la première édition, c'était vraiment beaucoup plus large. Donc, une chose qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça se fait que vous êtes venu à cet ensemble protéiforme, à parler du comics, des séries télé, ce genre de choses. C'est parce que c'est intrinsèquement lié aux jeux vidéo, ou est-ce que finalement c'est d'autres choses qui, elles aussi, ont leur terreau de passionnés, ou elles sont littéralement à part et sous-considérées, alors qu'ensemble, on serait une force, on sera plus fort que les Power Rangers.
Mais c'est un peu ça. En gros, nous au départ, on pensait pas du tout, par exemple, créer un pôle science-fiction. On pensait vraiment partir que sur du jeu vidéo et du manga. Mais pour comprendre le processus de la création du salon, il faut savoir que nous, on part de la base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des associations qui viennent nous voir. Mmh. Nous, on a lancé le projet, l'idée du projet. Donc après, on a des assos qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, nous, on sait faire ça, ça et ça. On aimerait bien le mettre en avant et en place sur votre salon. Donc du coup, ils nous ont présenté le projet et on a validé ou pas, selon les coûts, selon ce que ça peut rapporter derrière en termes de public, d'entrée, donc de visiteurs. La science-fiction, par exemple, ils devaient rien avoir au départ, ils sont venus en disant mais nous on peut venir, on va vous construire des décors, on va faire des animations, on va faire du maquillage, on va faire plein de choses. Ils nous ont convaincus.
C'était impressionnant.
La Porte des Étoiles, ça aurait été dommage si on l'avait pas eu.
Ah mais elle revient cette année, elle sera encore mieux.
encore mieux.
Il y aura le Vortex. Donc attention, ça va être magnifique.
Ah, pas mal.
Ah ben oui.
Et qui seront donc les associations qui viendront, les invités qui seront présents le week-end prochain?
Alors ça c'est la question qui fâche parce que j'ai pas la liste exhaustive, donc d'accord. Je vais forcément en oublier. Alors je vais essayer d'en citer quand même quelques-unes.
De toute façon, toutes les infos sont sur le site web.
Voilà, non mais je vais quand même les citer vite fait, histoire que... parce que je vais me prendre des coups de fil sinon derrière. Non, ça m'aidera pas. Ça. Le prospectus ne m'aidera pas. Donc il y aura la GAO qui s'occupera du cosplay, il y aura qui s'occupe de toute la partie science-fiction, il y aura Game Over qui s'occupe de toute la partie arcade, il y aura DDR Bordeaux, il y aura l'association Powa pour d'autres jeux musicaux, il y aura Neon Notera qui s'occupe également de la partie dessin, il y aura Star Alliance qui fait aussi de la science-fiction, j'en oublie, je vais me faire tuer, Bulle Japon qui s'occupe de faire toutes les animations culturelles à Jap, enfin plein de choses. Alors pour ceux que j'oublie, hein, donc ils sont tous sur le site. Hein.
Oui, exactement.
Voilà.
Ouais, vas-y, continue.
Non, mais juste un peu.
Il y avait des noms qui circulaient sur le site des invités d'honneur. T'en parles bizarrement pas.
Ah, mais si, alors on en parle, mais bon, je savais que ça allait venir. On a, alors, invité d'honneur numéro 1 prestigieux, Bernard Minet.
Ouais, oui.
Je voyais tout le monde. Non, alors moi, je suis.
Non, du sport, on va l'utiliser.
J'ai oublié le disque à la maison.
Alors, moi, je suis, franchement, je connais Bernard Minet comme tout le monde, par rapport au générique, et j'ai été agréablement surpris par, parce qu'il a, la pêche, il nous a mis la patate sur le salon, enfin, quelque chose d'accord, moi, j'ai eu peur, justement, que les gens arrivent en disant, ouais, il y a Bernard Minet, on va aller le voir. Mais c'était l'hystérie devant, quoi, hein, je veux dire, c'était l'hystérie.
C'est la rockstar. Ah, étonnamment, c'était... il est pas Asbin.
Ah, non, mais enfin, il faut le voir, il faut le connaître. C'est quelqu'un qui est très accessible, on peut aller le voir, enfin, lui poser quelques questions et tout. Il est vraiment très, très, enfin, moi, je trouve. Un pro, voilà, c'est dans son milieu, c'est quelqu'un qui est très pro et très ouvert, quoi. Bon, après, autre que Bernard Minet, bien sûr, après on passe sur des groupes de J-pop. Donc on reçoit cette année Lamia Cross qui viendra en concert le samedi soir à 20h. On a également le groupe Yaneka qui était récemment à Dijon sur le salon manga à Dijon, et donc ils seront chez nous à partir de 21h40 à peu près au niveau du concert. On reçoit après un petit français qui chante en japonais, qui est quand même assez sympa, qui s'appelle Kiba Megatsu. Alors c'est un nom d'artiste, il a un vrai nom après, sinon je vais dire pas l'antenne, mais voilà. Mais par contre c'est très très sympa. Moi ce qui m'a plu, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui m'a contacté en me disant voilà, je chante en japonais, est-ce que je pourrais faire un concert. Donc il m'a envoyé sa démo, j'ai écouté ça, mais j'avais pas l'impression qu'il était français, ce monsieur. Donc
sur nous, c'est pas celui qui chante en japonais Senseiya Nouvelle Star.
Non, c'est
pas Thomas.
Je pense qu'il chante plutôt bien en japonais, puisque je l'ai mis en contact avec Lamia Cross et qu'ils vont sûrement faire un duo sur le salon. Donc je pense qu'il se débrouille vraiment bien. Pour la partie concert, donc après il y aura d'autres invités qui feront des morceaux au piano, par exemple des thèmes de jeux vidéo et de manga au piano. Et après, la partie, attention, guest star, la partie on se la pète. On fait venir des acteurs de ciné qui sont assez connus et inconnus. Alors on va commencer par celui qu'on ne connaît pas, mais que alors le nom, quand je vais le dire, personne ne le connaît, c'est David Prose.
Si.
Si,
quand même.
Voilà. Alors David Prose, c'est en fait l'acteur qui a joué Dark Vador dans la trilogie originale Star Wars de George Lucas, ne voit jamais à l'écran. Alors je tiens à le dire, on ne le voit jamais. C'est-à-dire que la tête qu'on voit à la fin de la trilogie, quand il enlève le masque, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, la voix de David Prose, ce n'est pas la sienne non plus dans Star Wars. Ah, je vois qu'on me dit non, mais si, c'est sûr, hein, moi j'ai des sources sûres.
Il confirme que c'est pas lui.
D'ailleurs, il participera à une séance de questions-réponses, on lui posera la question pour savoir s'il n'est pas trop frustré. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est
là, il va dire je suis frustré qu'on me parle que de ces trois films, mais j'en ai fait plein d'autres.
Je sens, mais ça peut être sympa.
En général,
s'il commence à dire je suis frustré, ça va être sympa, quoi. Ça va être sympa.
Ah, mais on voit que c'est pas toi qui fais la voix. Poster.
Non, c'est sûr. Alors après, on a là, on est très content également. Enfin, nous, on est très content d'avoir David Prose, c'est clair. On va recevoir John Rhys Davies, qui est en fait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue le rôle du professeur Arturo dans Sliders, qui joue le rôle de Sala dans Indiana Jones. Donc il sera là exceptionnellement en France sur le salon, sur le TGS. On reçoit également, alors attention pour les fans, un acteur de la série Heroes, qui est donc Jimmy Jean-Louis. Alors lui, pareil, ouais. Jimmy Jean-Louis, ça ne parle pas.
Ouais. Mais... il parle très peu dans la première saison.
Du sport, sa bio.
Effectivement, c'est l'haïtien, en fait. C'est l'haïtien de Heroes, ouais. Qui est français. Qui
parle traverse les murs.
Oui, ça dépend, moi aussi, hein, mais il faut me lancer fort. voilà, c'est. Mais donc, il sera également là. Et puis, pour un peu coller avec votre actu à vous, on reçoit également les nerds.
On va passer l'interview tout à l'heure.
Voilà, exactement. Donc ils seront là en intégralité, les quatre.
En intégrale.
Attention, tout nu. Entier. Donc voilà. Donc ça fait déjà une petite partie. Hein.
Justement, comment on fait pour avoir ces types-là?
On sort le chéquier. Non, alors en fait,
on y a cru.
Non. Alors déjà, il faut savoir que. c'est compliqué déjà pour rentrer en contact avec eux. Moi j'ai eu du bol parce que je me déplace sur pas mal de salons pour voir un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et donc j'ai rencontré donc un agent qui m'a fait rentrer en contact avec, avec David Prose. Et par le plus grand des hasards, David Prose s'est retrouvé sur un salon en Suède, je crois, avec John Rhys-Davies, et il lui a dit, ben moi je fais un salon à Toulouse, dans le sud de la France, et donc du coup il a dit, ben moi ça m'intéresse, moi je veux bien venir, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et Jimmy Jean-Louis, alors ça, ça a été, alors ça c'est le coup de bol pour Heroes, c'est en fait l'ami. Enfin, c'est un acteur qui est devenu ami maintenant avec un réalisateur qui s'appelle Farid MS Deba, qui sera présent sur le salon, peut-être qu'on en parlera, mais qui est surtout ce réalisateur, le meilleur ami d'enfance de Romain Duchesne, qui est notre associé. Donc du coup ça s'est fait tout naturellement comme ça en dernière minute. C'est pour ça que, enfin, nous on est très contents de le recevoir. Enfin voilà, c'est plus simple que ce qu'on ne croit au final, quoi, en fait. Il suffit juste d'aller sur un salon et de rencontrer des agents.
Enfin, en ce qui concerne David Prose, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais il faut aussi savoir que dans les différentes conventions qu'il peut y avoir, la convention de Lille, il y a eu une convention il n'y a pas longtemps à Paris, pas à Japan Expo, mais une autre, il était également présent. Oui, donc je me demande si il capitalise pas un petit peu sur son apparition, enfin sur son apparition dans Star Wars, pour justement, bon bah maintenant il est en train de vivre sur ça, quoi.
Ah oui, non, mais de toute façon il
fait plus que ça, quoi.
Il ne fait plus que ça, voilà, de toute façon, il ne fait que des salons. Mais c'est vrai que, alors d'ailleurs il le dira, et il le dit à toutes les conventions, il remerciera jamais assez George Lucas de lui avoir donné cette chance, puisque maintenant effectivement il a aucun problème, quoi. Il en vit entièrement. Il faut savoir que les acteurs anglo-saxons et américains, quand ils se déplacent sur des salons, les autographes sont payants.
Mmh. Comme les dessinateurs. Alors, attention, hein, les dessinateurs américains, la plupart, en général, se font payer les dédicaces aux États-Unis. En Europe, ils savent que c'est pas trop dans les mœurs.
Voilà, c'est vrai qu'en Europe, c'est pas trop dans les mœurs, mais c'est vrai que il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est des gens qui nous ont fait rêver à tous, qui travaillent plus forcément. David Prose ne fait plus de films.
Il est assez âgé, hein, de toute façon, hein, on l'a vu dans des films avant Star Wars, hein, on l'a vu, hein, on connaît sa tête, hein, de toute façon.
Oui, tout à fait.
Dans les films d'horreur anglais des années 70, donc c'est un monsieur qui a été culturiste, hein, c'est quand même un mec assez balèze.
Mais d'ailleurs, l'anecdote, ça a été George Lucas lui avait proposé de jouer soit Chewbacca, soit Dark Vador, et lui a dit, on se souvient toujours.
C'est quoi le dialogue de Chewbacca?
C'est ça. Non, mais il a répondu, moi, on se souviendra toujours du méchant, moi je joue Dark Vador. Voilà, c'est quelque chose qui est rigolo à savoir.
C'est pas mal, hein. C'est une bonne habitude du secteur.
Mais c'est vrai que voilà, les gens de fois sont un peu choqués en disant que les autographes sont payants, mais il faut savoir que quand vous allez venir sur le salon, vous allez le rencontrer, vous allez pouvoir aller à côté de lui, lui poser quelques questions. Il y aura un interprète à côté justement pour traduire, pour qu'il n'y ait aucun problème de dialogue. Il fait payer un autographe, mais il vous remet quand même une photo quand même qui est assez jolie, qui est qualitative. C'est un vrai souvenir, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut dire j'ai rencontré David Prose, j'ai une photo avec lui. Enfin voilà. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'en France on n'a pas trop l'habitude de ce genre de procédés, mais c'est ce qui met aussi. Alors déjà ça les sauve à eux, parce que vous imaginez bien que si on met David Prose, John Rhys-Davies et Jimmy Jean-Louis un autographe gratuit sur un salon, ils font plus que ça, ils mangent plus, ils font 5000 à l'heure. À les mettre en payant, ça donne de la valeur à l'objet. Et de toute façon, il faut savoir que ces gens-là se faisaient vendre. Enfin, tous leurs autographes se retrouvent généralement sur eBay après. Donc il y a des gens qui les vendent. Donc vous avez le vôtre, pour une vingtaine d'euros, vous avez votre autographe personnalisé, votre souvenir, la rencontre, quelques questions. Enfin, c'est quand même une vraie opportunité, quoi.
On en parlera à Nerds, ils écouteront l'interview.
C'est gratuit, Nerds. Les idées. C'est gratuit.
J'entends un miaulement dehors.
Donc les filles, vous voulez pas aller voir si oui, parce qu'en fait maintenant qu'on est entre nous, donc on va parler un peu des stands divers. Vous avez parlé d'une salle en taille la dernière fois. Alors qu'est-ce que c'est? Il y aura quoi? Avec qui? Comment?
C'est ça. Alors ça sera très soft, hein. On est un salon de grand public. Il est vrai qu'à l'entrée de cette salle qui est un peu particulière, il y aura un contrôle d'accès avec présentation de carte d'identité pour rentrer, hein. Sinon on fera du délit de faciès, c'est-à-dire que si malheureusement vous avez le visage de 16 ans et que vous en avez 24, et bien malheureusement si vous n'avez pas votre pièce d'identité, vous resterez bloqué. À l'intérieur vous trouverez des figurines, des DVD. Alors Il y aura de la projection. Attention.
Ah, du boucaque.
De la, de la projection.
J'aime beaucoup ce mot. Mais j'ai donc ça sera triste, ça sera soft. Il faut pas avoir peur. Pour la petite anecdote, la salle qu'on a réservée Muay Thai Diagora était munie. C'est vrai, c'est véridique. Vous pourrez le vérifier sur le salon. De deux toilettes de chaque côté de la salle. Donc il y avait un accès aux toilettes qu'on a décidé de condamner pour le salon. Pour éviter tout petit problème et toute rencontre spéciale dans les toilettes.
Magique, les services techniques ont dû beaucoup rigoler quand vous avez dû leur expliquer.
Alors déjà, leur a fallu expliquer le Muay Thai, c'est vrai que. Donc, on en est resté sur manga coquin. Voilà.
Bon. Ça va y aller.
Et donc, hormis le délire pour les gros pervers, en fait, il y a plus ancré jeux vidéo, il y a des salles thématiques, des expositions.
Voilà, disons que l'avantage d'être sur Diagora à la beige, c'est que c'est un centre de congrès qui dispose donc de plusieurs espaces, un grand hall qui va nous permettre de faire de l'expo massive avec tout ce qui est stand classique, avec animation classique, scène, et des petites salles dédiées. Alors, salles dédiées, et quand je dis petites, c'est pas forcément vrai. On a par exemple un amphithéâtre qui va servir à la projection, encore projection, ça fait deux fois, de films, de mangas, de petits courts-métrages SF, sur un écran de 15 mètres de diagonale avec 508 places de cinéma. Hein. C'est vraiment des sièges de cinéma.
C'est l'espace Agora de...
C'est l'espace Diagora, c'est l'amphithéâtre de Diagora, en fait.
Okay.
Puisqu'en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Diagora, c'est le nom du complexe, mais après, c'est aussi le nom du premier bâtiment. Puisqu'après, le deuxième bâtiment s'appelle Agora, en fait. Hein. Voilà, on aura une salle, par exemple, dédiée à l'arcade, où il y aura 240 mètres carrés de bande d'arcade. Dédiés, des choses jolies, hein. Pas des bornes René Pierre qu'on trouvait dans les cafés, dans les croquets du coin, hein. Des bornes japonaises, des bornes où on peut monter dedans. Je sais par exemple qu'on a une borne qui est unique en Europe, une borne Star Wars, où on s'assoit sur des sièges, donc il y a un tireur et un pilote par exemple, quoi, et on joue avec un écran qui fait 2 mètres de diagonale, et on est sur un pod, quoi, en fait, hein, donc c'est assez, assez sympa. Donc des bornes dédiées, il y en aura plein, il y aura deux salles de quiz où vous pouvez aller en petit groupe à 4-5 et vous passez un quart d'heure sur à 4-5 et il y a du quiz aussi, mais je vais en parler, il n'y a pas de problème. Il y a deux salles de karaoké où c'est sympa, justement on retrouve cet esprit japonais, en fait, où on rentre dans un petit espace qui fait 9 mètres carrés à peu près, avec des fauteuils, une petite table, des micros, on chante, on prend le délire, on fait la petite photo et on va après explorer le reste du salon. On a des expositions, des salles dédiées à l'exposition rétro gaming, des salles dédiées à la projection, troisième fois,
sur les comptes, il prépare.
Projection d'AMV, des animes musique vidéo, en fait, avec des associations qui s'en occupent. On a des salles avec des jeux de plateau, on a des salles avec des tournois de cartes, on a des salles avec la PES League qui s'installe, des tournois Naruto, qu'est-ce que je peux vous dire, des salles dédiées à la culture asiatique où il y aura à l'intérieur donc des ateliers d'origami, de calligraphie, de go, il y aura du sumo, le sumo gonflable, je sais pas si vous l'aviez vu l'année dernière ou pas. Voilà, là il y sera également, il y aura du massage shiatsu. Ouais, celui-là il plaît, hein, c'est clair. voilà, beaucoup de petits enfin, nous, on a essayé de prendre en possession de l'espace. C'est pas facile sur un espace comme ça. Mais...
Surtout que ce sera l'ensemble par rapport à la première édition.
Voilà, donc voilà. Là, c'est complet.
Pour les fans de la franchise de Verhoeven, il y a un petit quelque chose.
Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parler.
Non. Bon.
Alors oui, on aura pour la première fois en fait en Europe. Première fois en Europe. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pour le niveau mondial, parce qu'elle a la plus grosse collection au monde de props. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est comme props, ce sont des objets officiels qui ont vraiment été utilisés sur un tournage.
Les accessoires, les vêtements,
voilà,
les véhicules.
De la série Robocop, en fait, enfin, du film Robocop. On aura notamment l'armure qui a servi dans Robocop 2.
C'est celle qui est en bleu, j'ai vérifié.
C'est celle qui est en bleu, d'accord, je ne sais pas. J'espère que je ne dis pas une grosse bêtise. S'il faut, c'est Robocop 1. Enfin bon, a priori, il semble que c'est Robocop 2. Beaucoup de produits qui ont servi des armes avec le certificat officiel, hein, comme quoi ça semble bien livré. Enfin, beaucoup d'éléments, des costumes d'acteurs, des dossiers de presse, des choses comme ça. Des choses qui sont vraiment dédiées à Robocop. Et on aura la présence de Julian Grant. Alors, Julian Grant, alors, c'est pas Paul Verhoeven, hein, on est d'accord. C'est le monsieur qui a réalisé la mini-série Robocop, Robocop 2001 en fait, Prime Directives, juste après.
Ah, c'était pas la série qui a été faite au Canada en 95, donc c'est celle qui est bien après. Ouais, elle n'a pas été diffusée en France.
Elle a été diffusée. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est la propriété, enfin, la diffusion à partir d'un sci-fi. Donc c'est quatre quatre films hein, qui durent à peu près une heure et demie.
Ouais, c'est quatre téléfilms.
Voilà,
ouais,
c'est quatre grands téléfilms. Donc Julien Grant a réalisé les quatre téléfilms et sera là donc pour parler de l'univers. C'est un passionné avant tout. Hein. C'est quelqu'un qui est très très facile d'accès et vraiment un gros fan de Robocop.
La semaine prochaine, l'émission supplément week-end sera en direct de là-bas. Thomas, si tu me ramènes Bernard Minet, il y aura des représailles. On verra ça.
Bah quoi, c'est bien Bernard Minet.
Sébastien, merci beaucoup. Raffi aussi. Vous restez ici, je suppose.
Ah ben écoute, je vois qu'on y a l'accueil est pas mal ici.
Oui, c'est sûr.
Et c'est dire. Et donc c'est à la Belge. Donc voilà, je me suis planté au tout début. Ça m'a.
Sinon, rapidement, est-ce que il y a des idées qui ne demandent qu'à mûrir que vous avez pas pu exploiter pour cette édition, l'édition de l'année dernière, toujours.
Mais on essaie de monter crescendo. De toute façon, on invente certaines petites choses, notamment le coût du billet VIP. Il faut savoir que ça n'existait pas sur le Japan Expo l'année dernière. Enfin, sur la dernière, ils l'ont mis en place, mais ça n'existait pas avant. C'est nous qui l'avions mis en place sur le TGS première édition. On l'a créé. On est très content et très fier que ça ait été repris sur des salons, même si la politique tarifaire d'autres salons n'est pas la nôtre. On a des petites choses qui vont se rajouter au fur et à mesure pour faire la différence. Nous, on veut que le TGS ça soit une expérience. On veut pas que ça soit un supermarché.
C'est tout à votre honneur. Midi 35 minutes sur la poubelle des radios, un supplément week-end. Donc Sébastien et Raffi vous ont présenté le Toulouse Game Show qui a lieu la semaine prochaine avec tout plein de choses encore. Vous pouvez avoir plus de renseignements, ben vous allez sur le site de la radio, radio-fmr.net, et les questions du site du supplément week-end qui vient d'ouvrir tout à l'heure. Et oui, on a le lien direct donc.
Mais hein, c'est bon, on peut dire le vrai site du supplément week-end maintenant. Ouh, c'est supplementweekend.fr.
Voilà, on était le premier podcast, première émission radiophonique francophone en podcast. Et maintenant, on a un site 5 ans après. C'est magnifique, c'est grandiose, c'est en retard.
On rappelle le site du festival, donc c'est toulouse-game-show.fr.
Voilà, vous aurez tous les renseignements et plein d'informations. Et une chose, attendez-vous quand même à un petit peu de queue et
mais file d'attente.
Vu la fun qu'il y a dans la file, quand même, ça vaut déjà son spectacle et c'est pas mal du tout. Enfin, en tout cas, nous l'an dernier, on s'était bien éclaté. Parmi ceux qui viendront, il y aura donc une case en moins. Une case en moins, ben c'est Nerds. Et Nerds, eh ben que dire ? Qu'est-ce que c'est d'après vous ?
Previously on Nerds.
Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64. Mais comme il n'en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion ? Les jeux vidéo. Son revenu ? Son appartement qu'il sous-loue à... Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Il loue également à Jérôme, graphiste maquettiste dans un journal culturel. Si on pouvait résumer Jérôme en une phrase, il a trop kiffé le dernier Godard. Et puis, il y a Régis Robert.
Ouais, et Régis Robert, c'est mon prénom. Ah ! Ah, tu m'as fait peur ! Tu m'as fait peur !
Hier soir, donc Nerds entamait sa troisième saison sur la chaîne No Life, et il n'y a pas que ça, hein, il y a vraiment de grandes surprises, puisque par exemple désormais, suite à un partenariat avec une plateforme de blog qui se situe à Toulouse et un opérateur de films sur le net qui est situé chez TF1, eh ben ils vont mettre les trois saisons en intégrale disponibles gratuitement et légalement sur le net à consulter, sachant néanmoins que quand même, c'est beaucoup et largement mieux en DVD parce que y a beaucoup plus de choses.
Bah t'as quoi dans tes mains, Régis ?
Ça, c'est le coffret de la saison 2 de Nerds en DVD !
Mais attends, Régis, c'est pas possible, on peut pas avoir un coffret DVD sur une série sur notre vie.
Bah si c'est possible, c'est parce qu'on n'est pas dans la série. Là, on est dans une pub, alors c'est possible.
C'est vrai ou pas ? Elle est où la caméra ?
Non mais attendez, c'est fascinant. Parce que ça veut dire que nos actes n'ont plus aucune conséquence sur notre vie.
Ah, je suis trop content que tu sois là, Dagobert.
Moi aussi, je suis content. Tu sais, Régis, j'ai croqué la kick à Monsieur Crocodile. Embrasse-moi.
Bah, c'est trop bien. Faut acheter Nerds saison 2 en DVD.
Bref, inutile vous dire que le DVD est archi complet, il est hyper intéressant, la série est absolument géniale et fabuleuse, puisque dedans, donc il y a cette bande de... C'est une colocation, mais à la différence des colocataires de M6, chacun a son vécu et surtout son immense passif. Et à partir de là, c'est vous dire comment ils sont rencontrés et tout le reste. Et puis,
Xavier a eu le plaisir de baver sur ses idoles.
Non, mais d'abord, tu es censé raconter la série.
Ah, mince.
Tu t'es trompé, on en est à la page 14 là du script.
Oui, bah c'est les gags prévus à l'avance qui merdent des fois. C'est pas grave. Hein. C'est toi, avec ton Balma, tu m'as battu. Hein.
C'est le plus fort.
Donc, Nerds, il vaut mieux que ce soit moi qui en parle parce que moi je suis moins geek que toi. Donc, c'est une série pour des geeks, par des geeks, sur des geeks, il faut quand même le savoir. C'est une série qui se caractérise par son décor unique. Donc, c'est le canapé de Dark Angel 64. C'est qui est un hardcore gamer qui est trop flemmard pour sortir s'acheter à bouffer. Donc, il s'est trouvé des colocs pour le nourrir. Il y a Régis Robert, l'énigme de la science, hein, qui boit son pipi, il ne change jamais de t-shirt, il est fan de Hugo Délire. Il y a Jérôme qui kiffe trop les films de Godard, mec super chiant manipulateur, c'est vraiment le bad guy de la série. Il y a Caroline, fan de poupées, qui comprend pas toutes ces discussions de ses colocs et qui croit que le mec aux cheveux jaunes fait des kamayuka dans le dessin animé. C'est une série où on ne rit pas vraiment aux éclats en fait, on apprécie le sens de la réplique, les comédiens sont attachants parce qu'on voit que c'est quand même des passionnés qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage et on sent quand même une certaine ambition malgré l'absence de moyens. Alors, on a eu aussi le plaisir de voir des guests, hein. Il y a eu une apparition absolument fracassante de Tom November, on a eu Pen of Chaos pour ceux qui connaissent Nahal Buck et la saison 2 par contre explore des horizons un peu plus sombres et miracle, il y a des séquences tournées en extérieur.
Alors dans le troisième, à ce qui paraît, il y a des épisodes complets qui sont tournés en extérieur.
Ah ouais,
bref,
ouais.
Tout ça pour vous dire que lors du dernier Japan Expo, donc en juillet dernier, nous avons eu le plaisir de les rencontrer.
Oui, donc c'est surtout toi qui as eu le plaisir de baver sur tes idoles.
Dans une interview très constructive.
Consternante.
Didier, Monsieur Poulpe, une interview enregistrée à Japan Expo en juillet dernier. Et désolé pour la qualité sonore, j'ai pas eu le temps de finir le montage. Vous avez compris que cette émission n'a vraiment pas été répétée, c'est une catastrophe.
Davy, Didier et Monsieur Poulpe.
Je t'arrête tout de suite, c'est Davy et pas Davy.
Et Didier.
D'accord.
Oui, je préfère Davy à l'américaine.
D'accord. Davy, Didier, Monsieur Poulpe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes les acteurs et scénaristes d'une série, d'une sitcom qui me passe sur une chaîne qui s'appelle No Life, donc la sitcom s'appelle Nerds. Et dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas la quatrième actrice principale, Maëlys.
En même temps, c'est une fille, c'est pas une geek. Donc.
Elle aurait pas su répondre aux questions, la plupart du temps elle fait je sais pas.
De toute manière, là elle est à l'hôpital, elle suit son traitement de trithérapie.
Excusez-moi, mais moi je voulais dire que j'adore Éphémère Radio et je veux dire que tous les gens de Toulouse sont des gens extraordinaires. Je vous adore, vive et Toulouse.
Même si l'accent du site des fois ça fait un peu mal au cul.
Sur les derniers chiffres du CSA, 90% de la production fiction audiovisuelle en France est produite et diffusée sur les 6 chaînes hertziennes. Donc vous. Vous êtes quoi finalement ? L'exception ?
On fait pas partie de ce pourcentage, déjà, c'est clair. On est vraiment une exception, je pense. En tout cas, pour se vendre en DVD, je pense qu'on doit être les seuls, même, peut-être.
J'ai pas compris la question.
Je sais pas de quoi vous parlez, mais en tout cas, je trouve que Toulouse est une ville formidable.
Et que l'éphémère radio. La ville rose, tu sais que les cachous viennent de Toulouse ?
Ben oui, je le savais, et c'est pour ça que j'adore Toulouse, notamment. Parce
qu'il était prévu que Claude Nougaro tourne dans la première saison, mais il est mort avant qu'on puisse tourner. Ça aurait été le guest spécial, mais c'était Toulouse, c'était annulé. Bon, bah tant pis. On a eu Tom November à la place, quoi. Mais c'était un peu la loose.
Mais pour répondre à ta question de base, oui, on est très très content de ce que tu disais.
Alors, la motivation, c'est tenir les 2 heures de programme frais par jour de No Life ou piquer l'audience de la météo de Louise Bourgoin.
Bah maintenant Louise elle arrête à la rentrée, donc au moins on est tranquille. 2 heures par jour, ouais, No Life c'est chaud. Heureusement qu'on n'est pas les seuls. Nous on fait quoi nous par semaine
Nous on fait je pense l'équivalent de 2 heures.
Ouais entre nerds, 1 minute pour parler d'eux,
la minute du geek. Quand il y a des mangements geek.
Ouais.
Ça fait du 2 heures par semaine.
Ouais, 2 heures par semaine. Ce qui est quand même pas mal pour des gens qui travaillent à côté.
Plus encore et encore plus les petits reportages des fois à côté. Plus le fait que Rémi, notre monteur, est devenu un des monteurs de la chaîne aussi. Donc en fait.
T'as mal au bras ou pas ?
C'est vrai.
Parce qu'il tient le micro à bout de bras et je trouve ça très beau. Parce qu'à Toulouse, ils n'ont pas inventé le pied de micro, c'est ça. Hein.
Ça, c'est vrai qu'à Toulouse, tous les gens sont musclés en plus.
Ouais. On a le stade.
Et moi, j'aimais bien. Je t'aimais bien, monsieur Poulpe. J'ai trouvé.
Alors, Davy prend l'accent, mais ça n'est pas du tout pour se moquer des gens du sud, puisque nous les adorons.
C'est pas faire l'accent de Toulouse en plus. C'est pas ça l'accent de Toulouse.
L'accent de. Faire du flouze. Avec l'accent de Toulouse. Si.
Fera l'oseille avec celui de Toulouse.
Tu connais. Connaisseur, les Malpolis.
Les Malpolis, le meilleur groupe de Toulouse, je pense.
Ça fera plaisir à Winning Productions, tiens. On a leur numéro. On leur signalera. La diffusion de la série a commencé avant le lancement de la chaîne No Life par un buzz sur internet. C'était parce que le lancement de No Life était retardé.
Oui, on avait prévu de commencer en avril, Nerds. Et puis en avril, No Life émettait pas. Donc on s'est dit, on va quand même mettre.
C'est ça d'ailleurs.
Non, faut pas dire ça. Ensuite, on a commencé à mettre sur internet les petites vidéos. Et effectivement, avril. Mais on s'est dit, mais ça va se lancer? Non, alors on est obligé de continuer les vidéos. Juin, ouf, ça se lance. Mais c'est vrai qu'au début on voulait faire quelques petites vidéos, et en fin de compte on a tenu 2 mois comme ça pour attendre le lancement de la série, quoi. C'est ouais. Vrai, j'avais oublié.
C'était pratique parce que ça a vraiment créé un buzz.
Et des gens qui croyaient que c'était que ça la série. Et il y a même encore des gens aujourd'hui qui croient que c'est que ça la série. Ils font, c'est nul!
En fait, il faut pas du tout retenir ce qu'a dit Davy. En fait, tout était pensé à la base, le buzz, etc. Tout était imaginé à l'avance, bien sûr.
Je vais refaire quelqu'un un mail, par exemple, sur ça. C'est nul.
j'ai. Non, il a dit bit.
Ouais. Véridique. On reçoit de plus en plus de mails avec des gens, peut-être jeunes, tu vois. Mais par exemple, pour 101%, il y en a un qui m'a dit. De prendre, je dirais pas le nom de l'animatrice de la chaîne de No Life, mais il m'a dit.
Qui n'est pas japonaise.
Pendant 101%, tu pourrais pas renifler sa petite culotte. Tu reçois ça dans ta boîte mail, j'ai pas répondu à son mail. Et des fois, vous êtes fous, vous, le public. J'espère que vous êtes pas de Toulouse.
Moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé la même chose avec le slip de poulpe et on l'a fait.
Oui, mais ça, c'est normal.
Oui, c'est alors pour répondre à ta question initiale, on est tout à fait d'accord avec ce que tu disais.
D'ailleurs, elle a commencé par un blog, par une plateforme de blog dont l'équipe de développement est basée à
Toulouse.
Voilà, merci.
Non,
c'est bien avoir blog, c'est bien avoir blog.
La ville rose.
Un peu plus sérieusement, tiens, ça va vous changer, mais puisque justement on parlait de que vous aviez un métier à côté et que vous faites ça donc sur vos temps personnels, mais aussi sur vos deniers personnels, combien vous coûte chaque épisode et combien vous coûte l'édition en DVD?
On avait calculé, je crois qu'un épisode nous coûtait environ 120 euros.
Enfin, 120 euros
en bouffe. De la nourriture pour tous les techniciens qui viennent bosser gratuitement, donc on leur paye à manger quand même. Il faut des cassettes DV, des DAT, un peu d'électricité. Après, tout ce qui est matos, caméra, on l'avait déjà, mais.
Les accessoires.
N'empêche, on va devoir y repenser vu que les caméras sont en train de mourir et qu'il va falloir les remplacer.
Enfin, l'idée, c'est que c'est, à mon avis, 120 euros les, en.
Par épisode.
Voilà, pur, mais en sachant qu'on ne paye pas les comédiens. Pas les techniciens, on ne paye pas les monteurs, etc. Donc c'est 120 euros.
L'essence pour venir ou quand voilà, on fait des épisodes en extérieur.
Les gens offrent l'essence, offrent les lumières. C'est le gars qui nous fait les lumières qui avait tout le matos. On le loue pas.
S'appelle Christophe, t'avais un trou de mémoire, tu l'avais oublié.
Non, mais j'ai oublié le nom du gars qui s'occupe des lumières.
Le connard avec la barbe.
Non, le nom du mec qui s'occupe des lumières, chef opérateur. Voilà. Mais voilà, et tout ça, on le paye pas. Mais si on payait tout le monde. Ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher et la série n'existerait pas. Et l'édition DVD ne nous coûte rien. C'est l'éditeur Kazé qui prend en charge le truc.
Bon, on a pratiquement tout fait, hein, que ce soit l'autoring, les interfaces DVD. On a fait le graphisme, on s'est chargé de tout. Ouais. Et après, lui, il a plus qu'à payer l'imprimeur. Il a plus qu'à payer l'imprimeur chat. Et le presseur, et après les envoyer dans les FNAC.
Voilà, lui, voilà, il se charge de la. Comment on appelle ça qu'on envoie partout?
La vente.
La distribution, c'est bit. Ça. La bite. Salut!
On est en plein syndrome Tourette, voilà, pour ceux qui nous prennent en direct.
Donc, oui, et lui s'occupe de tout ça, mais c'est. Et on touche à peu près 20% sur les ventes totales. Voilà.
Et ce qui est très intéressant aussi sur le DVD, c'est l'autoring qui est vraiment exceptionnel sur le scénario, sur la mise en place et tout ça. Ça
le 2 déjà
hein Le 2 Ben non, je ne l'ai pas encore vu. Tu vois, il est sous cellophane encore. Hein. Mais déjà le premier, il était très bien.
C'est le même principe, hein. On a gardé la même idée. sauf qu'il y en a plus de choses. Et c'est vrai que ça suit aussi le scénario,
c'est,
encore.
C'est jamais là, c'est plein de trucs différents, ça change sur chaque DVD, faut bien tout écouter, tous les menus, il y a des petites conneries.
Je pense qu'on peut dire que le DVD est fait d'une qualité exceptionnelle, qui est quasiment la même qui anime les gens de Toulouse.
Oui. j'allais dire, presque comme Toulouse, mais tu m'as soufflé les mots de la bouche, bite.
Tu vois, Thomas, tu vas finir par regretter d'être né dans les Landes et élevé au grain. Ouais. Pose ta question.
Ouais. Alors, détail tout con, vous tournez avec vos propres habits. voilà, parmi les autres contraintes, comment vous gérez ça en fait?
Bah, mes habits, moi, Régis Robert, c'est des fringues que j'avais au collège. Hein, donc voilà, et je draguais avec.
Et ça pose un problème justement dans ce cas-là, si jamais t'as une tache, un accro.
Si Régis Robert abîme son t-shirt en vrai, on est vraiment dans la merde, on peut plus, on n'en a pas d'autres quoi, il y en a un.
D'ailleurs, si quelqu'un à Toulouse a le même t-shirt que Régis Sun City, on est preneur.
Je pense qu'il doit en avoir un ou deux.
Il doit y avoir quelqu'un en France qui en ont. Donc s'il vous plaît, si vous avez un t-shirt Sun City comme Régis Robert, s'il vous plaît, contactez-nous.
Ça va être dur d'essayer de galoper après. Bah oui, d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que c'est plus facile à trouver des peignoirs un gars, une fille?
Alors justement, on a dû le faire sauter pour la saison 2, n'est-ce pas? Pour justement éviter de raccorder un gars, une fille et Nerds.
C'est nul!
Merci, Davy. Et donc...
Un gars, une fille. Merci. C'est nul! C'est nul!
Et donc oui, le peignoir, en fait on a mis vachement de temps à trouver le nouveau peignoir et Davy est frustré parce qu'il peut pas dire bite, vas-y je t'en prie.
Non, c'est juste que sur le peignoir, vu qu'on est un peu des losers et qu'on s'est dit tiens on va faire une série, tiens moi j'ai un peignoir dans ma salle de bain, alors on va le donner à Poulpe et ça sera Dark Angel. Sauf qu'au bout du 15e épisode on s'est rendu compte qu'il y avait le prénom Davy brodé dans le peignoir. Donc si tu veux continuer une série avec le prénom d'un des scénaristes brodé sur le peignoir, c'est un peu la lose, hein. Donc après on s'est dit merde, on vend des DVD, on a un peu l'air con, donc après on a un peu changé le truc.
Ça serait jamais arrivé à Toulouse.
Non, c'est sûr. Et à savoir que 22 Productions, quand j'étais fonctionnaire à la mairie d'Annonay, j'avais envoyé ma candidature pour écrire les scénarios de Un gars, une fille. Et j'avais envoyé des films une case en moins.
Ils avaient été intéressés par notre parodie d'Un gars, une fille.
Oui, et ils m'ont renvoyé une lettre en disant « Votre humour ne correspond pas avec la ligne éditoriale ». Je n'ai rien d'autre à ajouter.
On reviendra tout à l'heure sur cet épisode malheureux. Comment vous gérez de tourner, en l'occurrence chez Davy, pour la déco? C'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de, quand on t'offre par exemple une grande affiche qui est en train de faire Gilles Robert, la transformation étonnante, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur, ils ne peuvent pas voir. Et dans ce cas-là, comment tu fais? Tu es obligé de penser ta propre déco en fonction de l'évolution de la série? Est-ce que vous êtes obligé de déménager la moitié des meubles?
Alors normalement non, la série c'est dans les décors de mon appart, rien ne bouge, il y a qu'une télé qui bouge de temps en temps, on allume une guirlande, mais
c'est le seul truc en fait pour l'épisode d'anniversaire de Dark Angel 64, on a mis une guirlande électrique qui est restée du coup depuis, mais qui reste tout le temps même quand on tourne pas Nerds.
C'était ma guirlande et je faisais du bondage flashy avec.
Ok. mais à savoir que par contre on a eu un problème pour la fin de la saison, je sais pas si t'as vu la saison 2. Non, t'as pas vu la saison 2, mais à la fin de la saison 2. D'accord. En fait, on a un problème, c'est qu'on a utilisé ma chambre pour faire la chambre de Jérôme, et savoir qu'il n'y a qu'une chambre dans mon appart. Et là, on devait faire la chambre de Dark Angel. Et on s'est dit, merde, on n'a pas de décor. Alors, on a pris le lit, et on l'a poussé de l'autre côté de la chambre, et on a changé l'angle de caméra.
Et les posters.
On a changé les posters, oui, forcément. Les posters de Godard, c'était un peu abusé pour la chambre de Dark.
Est-ce que vous bénéficiez d'aide du CNC? Est-ce que vous avez entamé les démarches de ce côté-là pour une case en moins?
On bénéficie surtout d'aide du Téléthon et d'associations qui défendent les enfants du Darfour. Donc en fait, ça vient directement dans nos poches.
Non.
On a fait aucune démarche parce qu'on ne sait pas faire les démarches pour ça. D'ailleurs, si quelqu'un à Toulouse a envie de nous aider à contacter, justement, à faire les démarches, les dossiers, les papiers pour avoir des aides du CNC, on est partant.
Moi, en fait,
sérieusement.
Oui, j'y pense grave parce que vu que notre caméra tombe en panne, et en fait on a plus de caméra pour tourner Nerds, et on aimerait s'acheter des caméras HD, tu vois, mais c'est 2000 euros une, et il nous en faut deux. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a 500 euros de budget. Alors, je sais pas si tu fais le calcul, mais c'est amusant.
En fait, on peut avoir un objectif et une demi-batterie HD.
Donc, c'est nul!
Ou alors peut-être plein de pain au chocolat et on arrête Nerds. Et
ah, on mange des pains au chocolat. Ah oui, on devient gros. Ouais. Et après on aime Naruto et on reste chez nous. Mais et on regarde des Divix, ça on n'achète pas. Hein.
David, tu es déjà gros.
Est-ce c'était que... vraiment fascinant et tout de suite on écoute Zebda.
Est-ce que vous regardez d'autres séries? Je vais foutre les guillemets et pendant que Davy se venge sur Monsieur Poulpe pour lui garder l'entre deux jambes, il est bon pour se changer. Est-ce que vous regardez? Non, ça va tourner au Fight AO s'il vous plaît. Est-ce que vous regardez d'autres séries fauchées, style Rien de Neuf par exemple? J'ai vu qu'ils revendiquaient de 20 000 spectateurs par épisode.
Qui ça? Rien de Neuf? C'est quoi?
D'accord. Attends. Thomas, à toi.
Attends, où on en est? Ah oui. Alors qu'est-ce qui tient de l'impro et qu'est-ce qui n'est pas de l'impro?
La fin des scènes. La fin des scènes, c'est souvent de l'impro. C'est-à-dire qu'on a le gag final et à chaque fois, Régis ou Dark, souvent c'est nous, un de nous deux, qui rajoute une petite vanne en plus, comme les Wiki Wiki Wah Wah qu'il y a dans un des épisodes ou des choses comme ça, voilà. Ça va, t'habites
J'ai froid.
T'as froid?
J'ai froid aussi.
Avec la chaleur qui fait dehors, j'en reste quand même c'est assez toi. Surpris. Davy.
Oui.
Arrête de lui frotter les jambes, s'il te plaît, dis-moi. Fallait-il vraiment se moquer des handicapés?
Oui. Et...
Parce que ça les aide à se sentir mieux dans cette société qui les rejette. Non, un peu comme les gens de Toulouse.
Sérieusement. On a en plus des amis handicapés et justement ils sont dégoûtés parce que telle personne plaisante avec eux là-dessus et on a vraiment, c'est pas foutu de la gueule des handicapés quoi. C'est
là... Tu parles de quoi? Tu parles de Régis Robert ou de Éphémère?
Je croyais que tu parlais. Ah, tu te moquais de l'épisode où parce qu'il y a un épisode dans la saison 2.
Il y a des épisodes où Jérôme en fait est handicapé.
Voilà.
Tu parles de Régis Robert. Alors non, Régis Robert n'est pas du tout handicapé mental. On vous invite tous les gens de Toulouse à venir en Ardèche à Annonay et vous verrez qu'il y a plein de Régis Robert. C'est juste que c'est des grands enfants.
Ouais. Et même, je vous invite dans toutes les conventions à aller sur les stands amateurs de consoles de jeux et bien regarder certains joueurs et vous trouverez toujours un Régis Robert. Régis Robert, c'est le syndrome de Peter Pan poussé à son extrême.
Et ça, tu peux rien dire à ça. Tu vois, tu peux rien répondre.
Si, tu peux dire beat.
Tu peux pas test.
Oh, jolie la référence à Mosinor.
Et se moquer des poufs?
Alors nous, pour nous c'est les femmes, hein. On se moque pas des poufs, c'est une femme.
C'est notre vision de la femme en fait.
D'ailleurs je trouve un peu, vous dites ça comme ça à Toulouse, les femmes c'est des poufs quoi. Enfin, t'as un jugement un peu...
Que d'emmerde.
À Toulouse il y a que des cagoles quoi.
Non, chez nous les mémés aiment Lou Castagne.
Ah c'est moi. Alors, est-ce que vous avez rencontré vos alter ego? Et là, tu vas m'expliquer ce que c'est cette question, en fait.
Des gens, bah oui, moi j'ai joué. Alors, il faut que je raconte à l'EPITA. J'ai accepté de faire un concours parce qu'il n'y avait que 3 personnes et il fallait être 4, forcément, tu vois, pour un concours de jeux vidéo, 2-2, quoi. C'était un truc de tennis, Sega Super Tennis. Et je tombe devant un mec, oui, j'ai dit super vite.
Heureusement que je sais pas GTA 4,
non, je me dépêche. Non, GTA 4, j'aurais perdu. Il y a un mec avec des cols, un col, tu vois, jaune, pas très nettoyé. Et le gars, et j'arrive et j'ai cru qu'il connaissait Nerds. Parce que le gars, il me regarde, il me fait: c'est contre quoi? C'est contre toi que je joue? Ouais, je vais te battre. Pardon, je vais te battre. Je gagne. Je suis fort. Je vais te battre. Et là, je me dis, il se fout de ma gueule. Et non, le mec, c'est vrai, véridique. J'ai joué contre lui tout le long. Et à un moment, quand j'ai compris qu'il était un petit peu pas très bien, j'ai fait Régis Robert. Et le gars qui connaissait le concours, qui connaissait Régis Robert, mais c'était magique parce que je lui parlais en Régis Robert, et le gars il me répondait en Régis Robert, mais c'était pas joué. Et là, je fais, moi je vais te battre. Mais, non, mais je gagne. Et moi quand je perdais, je faisais, j'ai gagné. Mais non, je suis fort. Non, j'ai gagné. Et c'était, mais donc oui, moi j'ai rencontré mon alter ego et je l'ai trouvé beau et j'aurais voulu l'emmener chez moi, mais bon, j'ai pas le droit, la loi, tout ça.
Parce qu'il était mineur en fait.
Ah non, il avait pas de casque.
Oh,
c'est nul.
moi j'ai rencontré plein de Jérôme pendant mes études d'art. C'était blindé, j'en connais au moins 50.
Et moi en fait Dark Angel 64 je l'étais en fait il y a 10-15 ans sans le peignoir. Et il y a deux jours aussi quand je suis retombé dans GTA 4. Mais en fait oui, moi j'étais vraiment comme ça avant. Et je vois bien qu'on change de sujet maintenant.
Oui on va pas revenir sur tes trolls dans Linux FR, je t'ai reconnu. Tom Novembre en guest, ouais. C'est arrivé comment?
Bah comme on vous a dit, hein, après la mort de Claude Nougaro.
Et puis la venue de Marcus, qui est un peu un pote à Tom Novembre quand même. Et Tom Novembre, c'est un peu le mec le plus geek-otak que j'ai rencontré depuis très longtemps. Il est fan de comics, il est fan de jeux vidéo, il y joue avec son fils. Et en plus, ils regardent des animés en, ils regardent des animés casés, ils regardent des trucs comme genre, les 12 royaumes.
Ils regardent des dessins animés japonais quand c'est gamin, ils font, mais non, celui-là, il y a que les sous-titres, c'est pas en français, il fait, t'as qu'à apprendre à lire.
Oui, c'est un vrai geek otak, un vrai de vrai. Tom Novembre, c'est, je veux dire, il est pas dans Nerds pour rien, quoi. Voilà.
Clairement. Donc vous en êtes fier de l'avoir recruté. Vous aimeriez recruter comme ça d'autres personnes pour se dire oui voilà, ils assument justement ce côté-là, leur envie de déconner.
Michel Sardou.
Clara Morgan.
Josh Whedon.
Lui c'est un vrai. C'est
vrai. Clara Morgan a dirigé, je peux te promettre c'est une horreur.
Autant j'ai pas trop envie de la diriger, tu vois.
Moi j'ai envie qu'elle me dirige.
Bite.
La lumière
là,
bleue.
Plus de profondeur, voyez.
La lumière bleue de la peur, s'il vous plaît. Un fait divers sordide qui ressemble à celui de la saison 2.
Ouais. On est trop content qu'un journaliste nous pose la question. Aussi.
Non, mais
allez,
non.
Allez-y les médias. Ah, accusez-nous.
C'est pas une question, c'est un jeu. Et qui veut gagner de la perpétuité. A, les chocottes. B, un pur hasard. C, la rançon du succès. Ou D, c'est vous.
C.
B et C.
B et C.
Moi j'aurais envie de dire E. En fait, je pense que c'est peut-être lui, on devrait lui demander maintenant de nous écrire la saison 3 en fait.
Ouais. Et tu vois, de la prison, tu vois, au moins on aurait plein de trucs bien cool, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe après, tu vois, on aurait même pas besoin nous de se faire chier.
Bien sûr, on lui demanderait et lui le petit garçon, on doit lui faire quoi, tu vois.
Mais ça a été comment? Ça a été
plutôt que Clara Morgan, autant l'avoir lui en guest quoi.
Et ça a été comment sur le coup? La sueur froide, l'étonnement, ouais. Les coups de fil de la famille?
Moi, oui, des mails. Énormément. Des mails. Des gens qui disent, mais vous avez vu et tout, il y a un gars qui a mis des gens dans une valise, qui a mis la personne dans une valise et tout. Alors tu rigoles, tu fais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand j'ai vu aux infos le truc, genre, l'homme n'ayant pas de voiture a pris les transports en commun, merde, comme nous quoi. Et là j'ai fait, ah ouais, c'est chaud, c'est bizarre quoi. Mais ouais. Comme quoi, on est vachement proche de la réalité au fond.
Ouais, moi je me dis, je vais dire, enfin, on fait ça pour changer le monde, et si on a pu faire changer une personne, c'est quelque part, c'est que c'est gagné quoi.
Celle qui a vraiment changé, c'est sa femme.
Davy, dessinateur, présentateur, scénariste, acteur, réalisateur. Et il va falloir faire un choix.
Je suis pornstar aussi.
Vous savez, c'est encore un amateur ça.
Et hier, je faisais encore hurler une fille, je peux pas te raconter. Si ? Ok, je raconte. Alors, j'ai sorti ma ceinture. Non, oui, et alors quoi ? Bah ouais, je fais tout ça, ouais.
Et si tu devais faire un choix là-dedans ?
Le choix du cœur.
Prends ton temps. Prends ton temps.
Oh putain, c'est trop dur. J'ai pas envie de répondre, c'est trop dur. J'aime bien tout, mais j'aime bien être acteur quand même et scénariste. Acteur, scénariste, j'aime bien.
Monsieur Poulpe, mange mon geek. Faudrait vraiment que t'arrêtes. Ma femme en est folle. Elle te trouve génial. Elle te trouve beau. Elle te trouve sexy.
Et je la comprends parfaitement.
Il y a un gars qui m'a dit la même chose hier.
Mais je sais pas pourquoi, ça fait fantasmer les filles de me voir préparer la cuisine, mais c'est vrai que je suis un peu le plan cul number one de No Life depuis Mange Mon Geek, je ne sais pas pourquoi.
Même avant que No Life existe, je crois.
Et Mange Mon Geek, j'aimerais bien arrêter, vraiment, en fait, je rêverais d'arrêter cette émission, parce que c'est une torture à chaque nouvelle émission de trouver une nouvelle recette et une nouvelle cascade. Mais bref, tant que ça marche, je suis obligé, puis tant que je couche, hein, c'est surtout ça, en fait, qui fait que je continue Mange Mon Geek.
Est-ce que t'as vraiment couché avec Cyril Lignac, comme j'ai vu raconter sur Internet?
Oui, je.
Il est de Toulouse, Cyril Lignac ou pas?
Je n'ai pas couché avec Cyril Lignac, mais par contre j'ai couché avec Chantal.
Chantal, reviens. Didier, amnavé de Davy, il va falloir un jour lui prendre sa place. C'est quoi le début de ta phrase?
Amnavé
de Davy, il va falloir un jour que tu lui prennes sa place.
Non, moi je suis un second rôle, un second couteau, je suis le faire-valoir de Davy. Sans moi il n'est rien. Il faut un gros naze pour qu'il paraisse bien, vraiment, donc je suis son faire-valoir.
C'est ça le pouvoir secret, t'as le contrôle absolu.
Mais tu aimerais être son homme navet ou pas?
J'aimerais bien être son homme navet, ouais.
On est anciens des Beaux-Arts tous les deux. Comment s'est passé le passage de Tarkovski à Bernard Minet?
Je sais pas, mais en tout cas, toi, c'est mal passé au niveau de la gorge.
Ouais. Il a un Bernard Minet dans la gorge. Ouais. T'as un connard dans la gorge. Tous, crache.
Évidemment, là, comme ça, avec son syndrome Tourette et tout ça, il y a pas. Ça peut être étonnant, mais pourtant, Davy a été invité sur le Grand Journal. On a parlé de lui dans Arte sur Image. La série a droit à un article dans Technique Art, mais vous devenez tendance. Geek is chic.
Alors, j'étais tendance peut-être avant le grand journal, mais après un peu moins. Hein. Je me suis fait un petit peu taper dessus.
Attends, dans SI, s'il te plaît.
Bon, oui, non, oui, c'est vrai. Non, oui, bah, je sais pas, j'aimerais bien. En tout cas, si ça devient tendance, j'espère que ça va rapporter de l'argent à un moment, s'il vous plaît. Parce que là, ça commence à devenir.
En fait, pour moi, enfin, plus Nerds avance, plus je me dis que la tendance, ça veut dire qu'on gagne pas d'argent. En fait,
ouais, c'est ça
la définition du.
C'est la définition du web 2.0, tu sais.
Ouais, alors Nerds est totalement web 2.0.
Ouais, bah, vu le nombre de gens à Japan, on n'avait jamais vu ça. On ne fait pas 3 mètres sans se faire arracher nos vêtements, sans des filles qui font « Fais-moi un bisou !» Elle vient de Toulouse, Donne-moi un bisou et après, elle a 12 ans. Hein, voilà, on signe des trucs et tout. C'est hallucinant.
Et il y avait un mini Régis Robert.
Il y avait un gamin de 11 ans, venant d'Esch, qui s'est déguisé en Régis Robert.
Et il le faisait trop bien en plus. Toutes les mimiques, tous les petits tics de langage et de corporel, il le fait super bien.
Donc c'est ça qui est hallucinant, c'est que Nerds, on a le public. Mais on n'a pas de moyens de production, on n'a pas d'argent. C'est l'inverse d'une série.
Alors je pense que c'est là où on se démarque vraiment de la production française, n'est-ce pas? C'est que nous on a le public, mais pas les moyens.
Contrairement à Roger Hanin.
Exactement.
Oui, mais lui, les cascades de Roger Hanin, ça coûte beaucoup plus cher en termes d'hôpital. Quand il galope là, dans le commissariat. Davy, tu parlais dans ton blog que tu voulais écrire dans Un gars, une fille. Après le recul, vous préférez pas la production maison?
Ah si, ah bah si. Dans Un gars une fille, je pense que toutes les vannes sur le piscu de Régis Robert, toutes les vannes sur les parents frères et sœurs jumeaux, etc. Ça ne serait jamais passé. Ou en tout cas, j'aurais aimé que ça passe parce que. Dis-moi chouchou, il y a tes parents frères jumeaux consanguins qui viennent dîner à la maison.
Oh bah loulou, j'ai mangé mon vomi.
Bah, c'est pas grave, je vais te faire caca dans la bouche, le goût passera.
Davy, Didier, oui. Monsieur Poulf, merci pour tout. Merci. Et donc, eh ben, on espère bientôt une suite.
Bah écoute, non, c'est nous qui te remercions parce que FMR, c'est vraiment une radio formidable. D'ailleurs, moi, je l'écoute tous les jours et d'autant plus que cette radio vient de Toulouse. Toulouse, qui est une ville formidable. La faune et la flore de Toulouse sont très importantes.
C'est nul. Previously
on... Voilà, donc l'interview des Nerds. À Japan Expo.
Je comprends.
Interview super longue où ils ont fait la promo d'une plateforme de blog basée à Toulouse. Il faut faire la promo des deux autres plateformes de blog qui est à Toulouse, Canal Blog et Chatcheblog. On est obligé, voilà, c'est la législation. Donc salut les ex-collègues et salut les gens qu'on ne connaît pas. Et accessoirement, Chantal, j'aurais deux mots à te dire à propos de cette relation donc que tu aurais avec Monsieur Poulpe. Bon appétit.
Là, on comprend le calvaire que vivent certains journalistes quand ils interviewent des gens comme KDO ou Eric Ramsey.
Nous, on est plus blindés qu'eux, quand même.
Oui, mais on avait trois Olibrius en face, c'est pire.
C'était chaud. Voilà, donc ils seront la semaine prochaine à La Belge, au Toulouse Game Show.
Oh, bon.
Et donc, ben, vous pouvez les rencontrer. La série sort maintenant donc sur nerds-laserie.com et on conseille plutôt les coffrets DVD. La première saison est à 15€, la deuxième saison est à 30€. Vu quand même la quantité de bonus vidéo qu'il y a dedans, vraiment, d'abord on sent que ce sont des mecs qui ont fait de l'autoring vidéo, qui ont bossé là-dedans et qui se font plaisir et qui ont fait plein de courts-métrages complètement délirants. Et rien que la construction du DVD, les menus, ça a pleuré.
Oui, bah, de toute façon, quand ce sont des consommateurs et des fans de DVD qui s'occupent des DVD, ça donne toujours des résultats super bien, hein, même que ce soit au niveau vraiment beaucoup plus professionnel, ça ne manque pas. Hein. Après, la blague qui circule, c'est est-ce qu'il y a des coffrets DVD de Nerds qui n'ont pas été dédicacés?
Oui, c'est pas mal. À mon avis, oui, parce qu'ils ne couvrent pas toute la France pour les dédicaces. Bien dommage pour eux. Mais bon, voilà. Et donc la série a redémarré hier. Normalement, le premier épisode de la saison 3 est aussi disponible donc depuis maintenant sur le net. Et plein d'autres choses. Voilà. C'est super. C'est Dr. Fruitcake, c'est extrait de. C'est un remix par Overclocked de Dr. Mario, voilà. Et comme
comme Davy a cité les Malpolis, extrait donc de leur album La fin du retour de la chanson. La fin du retour de la chanson. Les Charlottes, voilà, ça fait un petit break musical parce qu'il est 13h08 quand même, mine de rien. Non, c'est pas ça.
Bonjour et on démarre tout de suite avec du football.
Charlotte va passer en cinquième, mais pas sa meilleure copine, qui doit redoubler l'année prochaine, et ça la saoule et ça la déprime. Parce que sa copine Emmanuelle, personne ne compte plus à ses yeux, elle est un peu grosse, moins jolie qu'elle, comme meilleure copine, y'a pas mieux. Charlotte, elle a le tout dernier cri des portables, une pure merveille. Chaque fois qu'elle appelle une amie, elle se photographie l'oreille. Elle a un piercing sur le nez, elle est stream depuis le CM2. Être rebelle, ça lui plairait, mais sa mère lui laisse faire ce qu'elle veut. À force qu'on lui répète qu'un disque est bien, qu'un film est beau, elle trouvait des tas de trucs chouettes qu'au début elle aimait pas trop. Charlotte, elle aime pas la télé qui nous prend vraiment pour les glands. Elle peut le dire, elle est qualifiée vu qu'elle passe sa vie devant. L'argent c'est important, mais dans la vie ça fait pas tout. T'as beau être riche si en même temps t'es pas célèbre, ça vaut pas le coup. Charlotte a lu dans un magazine des trucs de cul assez salaces. Qu'elle aimerait bien faire avec Kevin, mais faudrait déjà qu'il l'embrasse. C'est de l'intolérance. En étant démocratie, on a le droit de dire ce qu'on pense sans trop penser à ce qu'on dit. Parfois elle se déteste, elle se trouve trop cloche, puis elle se dit capille, elle pourrait être moche. Petite, elle se voyait infirmière, secourant les gosses d'Éthiopie. Elle trouvait que l'humanitaire, c'est cool, plus on voit du pays. Maman, elle parle que de mariage. D'abord des gosses, trois cartes bleues, ses parents sont fiers qu'à son âge, elle soit déjà aussi con que...
JB, lui, vient d'arriver. Sabrina aussi se rapproche d'un micro sournoisement en faisant des rrrr à son chat, à son grand mâle. C'est bien, il y a de l'ambiance. Vous écoutez bien le supplément week-end sur la poubelle des radios, FMR 89.1 MHz. Et comme il est quand même déjà 13h11, on va pas parler de bande dessinée, on se réservera pour la semaine prochaine.
T'as raison, c'est nul.
Bah non, la semaine prochaine, peut-être pas, quoi.
Non.
Bah ça dépend, hein. On sera sur place, on verra.
Ouais. Tu es à la beige.
Et où ça?
C'est pas à Balma, dans ton cul, oui je sais. sinon donc, la revue de presse vous est présentée.
C'est pas à cette heure-ci.
La revue de presse vous est présentée par Sabrina.
Coucou.
Salut.
Oui, alors réglage de mes.
Voilà, c'est les douches, hein. Vous savez ce que c'est, ça grince.
Ça grince, voilà. Donc, revue de presse, donc je sais pas si vous connaissez, donc on disait BD, mais on est dans la culture geek otaku. Donc c'est Coyote Mag, donc on va dire, je vais lire le petit bandeau, c'est la griffe manga, Japanime, J-Music, Asian Culture, voilà.
Oui.
Tout est dit, en fait c'est le numéro 29, pardon.
Un chat dans la gorge, c'est magnifique.
Chouette. Le numéro 29, donc dans novembre-décembre. Donc qui est déjà en kiosque depuis le 5 novembre. Et donc donc je vais faire une petite présentation. Donc Yacht Magazine. Donc c'est un magazine qui a été créé en 2002 par Laurent Coffel et Franck Le Guay, qui au départ est un magazine bimensuel, donc édité par des éditions que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est de Tournon.
Le Tournon, c'est les anciens sémiques.
Voilà, ok.
C'est aussi
et donc ce magazine donc suit une ligne plutôt éclectique puisque il traite de nombreux sujets comme l'animation, comme le manga, le cinéma asiatique et entre autres. Voilà. Ce qui est intéressant surtout, moi je dirais dans Coyote Magazine, c'est la lecture de prépublication. Parce que donc ça a été créé en 2002. Effectivement, ce ne sont pas les seuls qui ont proposé des prépublications, puisque DreamOne l'a fait avant, Manga Player aussi. Il y avait aussi un magazine qui s'appelait Yoko, je ne sais pas si tu connaissais Xavier.
Oui.
Feu Yoko, parce qu'il est mort.
Oui, tout à fait, mais c'était aussi chez ton nom.
Oh, voilà, mais donc voilà. Mmh. Et donc justement, je parle des prépublications, puisque donc il y a depuis 2002. On prépublié Sentai School, entre autres. Donc c'était la première BD.
C'est Super Sentai School.
Sentai School. Enfin, le nom exact, c'est l'école des héros. Mmh. C'est depuis 2002. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu Sentai School sous-titre l'école des héros. Donc dessiné et scénarisé par Philippe Cardona et Florence Torta. Et au fur et à mesure, on a différents mangas, donc on a eu droit à Slayers. Là, actuellement, donc justement pour le numéro 29, c'est Slayers. Qu'est-ce qu'on a ? On a notre prépublication, c'est The Quasar of Stigmata. Donc bon, c'est sympa. On a quelques. Le principe de la prépublication, c'est d'avoir quelques pages donc, du manga. En format, on va dire, légèrement plus petit que le A4, donc c'est quand même assez sympa, on y voit bien. Sympa, mais bof, voilà. C'est.
Qu'est-ce qu'il y a dedans là, actuellement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un dossier
Disons que dans Coyote, donc, vous avez un article sur Freedom, sur. Donc, c'est le nouveau Otomo. Eh ben non, c'est pas Otomo qui a créé Freedom. C'est en fait il a lancé les bases donc sur les mini-séries de Freedom. Et moi je vais surtout parler d'un article sur le nouveau bébé donc de Shinichiro Watanabe. Alors je m'explique, c'est le créateur.
C'est qui?
Shinichiro Watanabe.
Oui. Non mais là j'étais en train de dire autre chose donc.
D'accord. Donc c'est le créateur de Samurai Champloo. Donc peut-être pour certains ne connaissent pas. Moi je suis une grande fan de Samurai Champloo.
Samurai Champloo, c'est les samouraïs qui font du hip-hop. Hein,
ouais.
19e.
Non, il faut du Bushido sous des airs de hip-hop. Voilà.
C'est celui qui a fait Cowboy Bebop aussi. Hein.
Oui, entre autres.
Série préférée parmi les séries préférées de Xavier.
Voilà, bref. Donc voilà, donc vous avez plusieurs articles. Et je peux pas en dire plus. Parce que j'ai pas, tu devrais, parce que là,
du sport est en train de brouter, donc il peut pas apprendre à voler.
Mais en fait, il y a aussi. Donc,
la bouche pleine.
Il y avait quelques pages sur le. Donc tu en as parlé du projet d'Otomo. Il y a aussi un article savoureux sur est-ce que le succès n'a pas tué la série Death Note. Puisque justement, ils sont assez assassins envers la série qui a quand même. Est devenue quand même une série vachement de parlotte et qui n'a pas tenu les promesses de la première moitié de la série. Il y a également une partie.
En fait, il y a des actualités. Il y a actualités manga, donc sur les nouveautés, toutes les nouveautés actuellement, donc Trinity Blood, Ottoman, etc. L'actualité cinéma, par exemple le film d'animation qui va sortir bientôt, donc en 2009, Un été avec Ko, ou Ku, je sais pas comment on dit, ou 20th Century Boys. Donc le film live du manga culte.
Ouais, bon, ça c'est actuellement en production hell.
Voilà, donc vous avez plein d'actualités, la musique, vous avez les jeux vidéo, les sorties DVD, les sorties manga, le bonus comme je disais, donc c'est la prépublication. Et Chantal, ça pourrait t'intéresser aussi, il y a à la fin les petites recettes de Coyote. C'est très sympa. Et d'ailleurs je fais une petite pub, la dessinatrice qui fait les petits dessins de Coyote. Donc le petit logo Coyote, ainsi que les recettes. Vous pouvez voir son dessin sur niniworld.free.fr.
On mettra le lien sur le site de l'émission suppléantweekend.fr.
Voilà.
Youpaï. Youpaï. Youpaï.
On rappelle les références de Coyote. Voilà. Donc, 5,99€ en kiosque. Bimestriel, c'est le numéro 29 de novembre-décembre.
Voilà. Et puis voilà. Thomas, on fait presto là ouais. Parce que vu l'heure, là, il est
oui, 13h20,
il y a du sport qui fait. Donc, oui, faites pas chier, il y a le rugby, quoi. Merde.
Bon, non, de toute façon, on va chroniquer du caca.
Chronique Cinéma vous est présentée en Dolby Caca Surround par Thomas.
Avec aujourd'hui Max Payne, l'adaptation du jeu vidéo, film de John Moore avec Mark Wahlberg, Beau Bridges, Olga Kurylenko, James Bond Girl sur Quantum of Solace, Chris O'Donnell, Amaury Nolasco. Amaury Nolasco, est-ce que ça dit quelque chose à...
Sucre.
Sucré dans Prison Break, effectivement. Alors, la femme et l'enfant de l'inspecteur Max Payne ont été assassinés depuis... Comme son confrère Fox Mulder, d'ailleurs, Max travaille aux affaires non classées. À la recherche de l'assassin jamais retrouvé, Max tombe sur une affaire présentant des similitudes. Un groupuscule avec des ailes tatouées, adepte d'une mystérieuse drogue. Alors, en matière d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, souvenez-vous, il y a eu Doom, Double Dragon, Street Fighter... Mortal Kombat, Resident Evil, et eh ben c'était des catastrophes. Ben Max Payne fait pas exception. Même si c'est un peu mieux quand même. Hein, c'est pas une adaptation d'un jeu de baston, c'est un jeu de tir. Donc là, on voit qu'il y a une ambition formelle derrière. C'est franchement, le directeur de la photo, c'est un as. Hein, on pouvait même soupçonner que le réalisateur est un ancien directeur de la photo. J'ai pas pris le temps de vérifier avant. On a des ambiances vraiment super, ça rappelle franchement du Frank Miller animé, hein, puisqu'avec cette neige ininterrompue, ces rues vachement éclairées de façon contrastée, avec des rues moites un peu très très froides. Donc vraiment, c'est au niveau visuel, c'est quand même une claque, hein, on va pas se voiler la face. Sachant que aussi que les fusillades, le réalisateur, de façon complètement pas du tout convaincante, a quand même essayé de filmer des gunfights, enfin des tirs de guns qui partent au ralenti, filmé 1000 images seconde, donc c'est joli, voilà, on va pas épiloguer dessus non plus. Non, par contre, le reste, c'est franchement la merde. T'as Mark Wahlberg, on dirait, on sait pas ce qu'il fout là, c'est pas du tout pour moi c'est un mauvais casting, hein, puisque justement Max Payne, c'était un mec obsédé par la vengeance, qui est brûlé de l'intérieur par ce désir de vengeance, et justement le troisième larron il a tué les deux autres, mais le troisième larron, il a jamais pu le récupérer, l'arrêter, et Mark Wahlberg, dans le film, il fait presque passer le Keanu Reeves de Matrix pour un cabot. C'est aussi expressif qu'une bande à incendie, c'est pas possible. T'as les gunfights, bon, alors certes, quand on pense gunfight, tout le monde pense à la John Woo, des trucs comme ça, mais après, je sais que c'est fatigant de toujours faire référence à lui, mais bon, il faut quand même avouer, quand tu fais du gunfight, t'es obligé de te comparer à ce qui a été fait de meilleur avant.
Alors, le petit souci, c'est que les gunfights font le rapport par rapport au...
Plus un
jeu vidéo,
oui.
Non, vraiment un jeu vidéo où l'intérêt de ce jeu était le slow motion, où à un moment le temps pouvait se ralentir tout d'un coup quand tu tirais pour mieux viser et faire de jolies cascades. Référence elle-même, évidemment, à John Woo.
À Matrix aussi.
Et Matrix et compagnie. Le film, le jeu vidéo. Non, attends.
Le jeu vidéo,
oui, deux ans après, effectivement.
En 2001, il surfait justement sur la claque qu'avait été Matrix au niveau Bullet Time.
Tout à fait. Mais. Je l'ai trouvé photographiquement très référentiel au jeu vidéo. Des scènes, essentiellement quand il rentre chez lui, ou les gunfights, comme tu en parles, très proches par rapport au jeu vidéo. C'est malheureusement, ou bonheureusement, enfin, ils ont essayé de s'en rapprocher, ça a été leur politique. Ok, on va faire comme ça. C'est peut-être pas la meilleure des choses, mais ils l'ont bien fait par rapport à ce qu'ils avaient à l'origine.
Et le truc, on peut dire, c'est pas vraiment au niveau. Technique de filmage des gunfights ou la façon dont c'est monté, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de crescendo dans le film. C'est que à un moment donné, il y a la scène de bravoure du film
somptueuse, où d'ailleurs qui est dans la balance, où il y a Mark Wahlberg qui tire au fusil à pompe à la renverse, avec une scène qui s'étire en longueur. Donc c'est quand même un des rares moments du film où tu dis tiens, ils ont inventé un truc. Alors certes, c'est peut-être proche du jeu vidéo. Enfin moi, j'ai pas eu l'impression de l'avoir déjà vu au cinéma avant, une scène qui s'étire tellement en longueur sur un plan non coupé. Et en fait, c'est pourquoi, c'est pour flinguer un pauvre homme de main que t'as vu 5 secondes avant. Alors, ça aurait été le climax où il flingue le pire enculé parce que c'est lui qui a buté sa femme et tout. Ah oh, putain, elle se pose lui la gueule et tout. Mais là, non, pas du tout. Là, pour buter le méchant, c'est juste un pauvre. Il tire une balle et puis voilà, c'est fini. Et il y a aucun crescendo dans le film. T'as pas de poussée d'adrénaline. T'as pas de il est à 1 contre 100 avec des putains de bureaux autour avec tout qui explose. Alors certes, tout explose, mais tu t'es détaché. Tu vois ça. Ouais, bon, ils ont mis une explosion quoi. Donc après c'est un festival de pensifs.
Est-ce que l'explosion serait au film d'action ce qu'est le rire enregistré à la sitcom, hein?
Oh, certainement. T'as aussi les pensifs qui s'accumulent avec le fameux flashback. Oh là là, c'était tellement bien quand j'avais une famille, avec le filtre doré où il y a Mark Wahlberg qui tapote la photo de son fils juste avant de le trouver mort. Non, oui, qu'est-ce que je suis heureux. Là, franchement, t'as les trucs, t'as l'enculé, allez, on va spoiler, on s'en fout, hein, c'est son ami.
Tu, on va avoir le hotmail.
Dès que tu vois l'apparition de Beau Bridges qui est le méchant,
normal.
Tu sais que c'est l'enculé, mais tu le sais, c'est son ami. C'est lui en fait. Voilà. Bon, après, un des trucs qui sauve le film, c'est pour ma part, c'est Olga Kurylenko. Donc là, on a dit James Bond Girl dans Quantum of Solace, qui a une apparition trop brève, mais ma foi, on s'en souvient. Voilà, donc bon, Marco, voilà, bon, on va pas épiloguer dessus. Max Payne, c'est un film à oublier, hein, même si par certains côtés c'est assez joli. Un film de John Moore, donc, avec Mark Wahlberg, Beau Bridges, Olga Kurylenko, Chris O'Donnell et Amaury Nolasco.
Allez, j'ai une spéciale dédicace pour Dark Angel 64, et après on va voir s'il y a des courriers déjà qui nous est arrivé sur la page contact du supplément week-end. Et tout ça pour vous dire, vous êtes tellement une merde, ça mériterait la destruction. Alors une symphonie de destruction par Megadeth. Oui, j'ai sorti le vieux disque.
God. Watch people's heads up.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Du sport.
Yes.
Ah, tu es... Bon, super, je vais pouvoir me jeter sur la nourriture et toi, tu vas être condamné à parler des séries.
je sais que je fous en l'air le programme, mais juste pour temporiser ce que j'avais dit avant la pause musicale, on y a été un peu fort. Max Payne est quand même un peu au-dessus de toutes les adaptations pourries que j'avais parlé avant. Hein. Bon. On en parlait en off, c'est pour
de
ça. C'est, comme c'était intéressant, c'est dommage
au-dessus de
pas en
faire profiter. Les... Oui, on va en reparler tout à l'heure en antenne. Du sport, vas-y.
Ok.
Viens là. C'est nul.
Alors, au niveau des séries, bah, c'est que du nouveau, que de l'inédit, donc. Et on est là, en train de baver. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, une série dont on a beaucoup parlé et qui, à mon avis, aurait dû faire une meilleure carrière, mais malheureusement, bon, bah, le public américain est ce qu'il est, et donc certaines séries que nous pouvons voir a posteriori en France ou en Europe et qu'on arrive à trouver assez bien, voire très bien, se retrouve annulé comme ça parce que bien au niveau de la production, au niveau des chaînes de télé, surtout des major networks, à savoir les ABC, NBC, CBS, eh bien il faut ramener des pépettes, il faut que les coupures pub ramènent des pépettes, et donc il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent. S'il n'y a pas suffisamment de gens, qu'est-ce qu'on fait? On dégage. Et c'est le cas de pas mal de séries qui sont encore inédites chez nous et que les gens achètent quand même, hein, que les responsables de chaîne achètent quand même, et en connaissance de cause en plus, hein, pas tout le temps quoi d'ailleurs, hein. Des fois ils achètent des chaînes en ayant juste la moitié de première saison et en se disant que ça va continuer, et bon ils se rendent compte qu'ils ont acheté une série un petit peu pourrie avec même pas une saison complète et qu'il y aurait pas de deuxième saison. OK, c'est comme ça, vous êtes fait avoir, tant pis pour votre gueule. Il fallait faire preuve de plus de discernement, tout simplement. Du côté des inédits, donc tout ça pour introduire Kane, cette série qui j'ai lu pas mal de critiques et de présentations sur cette série. Même dans les previews d'il y a bien un an et demi, hein, car c'est une série qui a quand même presque 2 ans, et à chaque fois, eh bien, on citait le nom de Dallas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'histoire de familles qui vont se disputer le commerce de la canne à sucre et du rhum. C'est un Dallas, mais à la sauce un petit peu portoricaine, hispanique, parce que ça se passe...
Sous Hélène se saoule à la production, au pétrole.
Ouais, non, mais là, il y a peut-être pas que sous Hélène, hein, qui va se saouler. Et donc, ça va raconter l'histoire en 16 épisodes, il n'y a pas plus d'épisodes, donc l'histoire de ces familles qui vont essayer de prendre le magot, hein, de prendre tout le marché. Alors, c'est interprété par... toute la fine fleur des acteurs hispanophones ou hispaniques, hein, on va dire, hein, que peut compter la scène américaine, avec dans le rôle principal Jimmy Smith, qui lui a la tronche qui fait le moins hispanique d'ailleurs, hein. Il faut le savoir, hein, en plus qu'il est portoricain d'origine. Jimmy Smith, qu'on avait vu auparavant dans NYPD Blue. NYPD Blue, c'est normal, c'est un habitué de chez Boschko, parce que il avait déjà tourné dans La Loi de Los Angeles, également une production Boschko. Il y a également dans Kane Hector Elizondo, rappelez-vous.
Oui, ça me dit quelque chose.
Eh bien, la série qui concurrençait Urgence et puis qui Chicago Hope, c'était le directeur de l'hôpital. Et il y a bien sûr Nestor Carbonell, bonjour, et celui Bat Manuel, qui était par ailleurs cet été, qui était le maire de Gotham City dans Dark Knight. Et il y a également Rita I Wanna Go to America Moreau, qu'on a vu, qui est
Sister
Peter Marie dans
Peter Marie.
Voilà, et qui est c'est l'une des deux nanas que vous voyez dans West Side Story. Mais ça remonte à vachement loin, vous étiez pas né. Tout ça donc dans Kane, qui sera diffusé sur Série Club à partir de lundi prochain. 3 épisodes lundi prochain à partir de 20h45 pour cette grosse production, hein, quand même. Kane, hein, c'est pas de la petite série, hein, c'est bourrin quand même au niveau de la production. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, Xavier, tu as bien aimé The Unit, je crois.
C'est pas mal.
Hein, avec Denis Iceberg.
Ça le change, le président Black, d'être chef de commando.
Et il y a eu une bonne idée, hein, mais c'est de s'imaginer, bien que dans The Unit, les intrigues soient partagées en deux. Hein, c'est-à-dire, il y a ce que font les hommes sur le terrain, parce que c'est quand même une section un petit peu spéciale, on va dire, hein, dans The Unit. Et il y a également l'histoire des femmes qui restent à la maison au casernement et qui n'ont pas le droit de dire ouais mon mari est parti là-bas et tout parce que ce sont
déjà
des missions ultra
secrètes. Elles sont dans une société civile un petit peu un peu à part hein, puisqu'il faut pas qu'elles se mélangent aux autres, mais en même temps elles montent aux autres membres de la base
parce qu'elles ne peuvent pas tout dire tout simplement.
Voilà.
Et bien voilà une série qui se veut un petit peu le pendant de The Unit parce que les personnages principaux vont être les femmes de soldats. Ça s'appelle American Wives, c'est le titre qu'ils ont trouvé en français, alors que le titre normal est Army Wives, ce qui paraît un petit peu plus logique. Alors pourquoi changer ?
Quel naze !
Bon ben c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux quoi ? Alors donc ça va s'attacher à suivre la vie de ceux qui partagent la vie de soldats qui sont partis au front. Hein, et donc il va y avoir pas mal de femmes. Il y a quand même un mec, hein, il faut dire, parce qu'il n'y a pas que des mecs qui partent au combat. Il y a également des nanas. Il faut le dire. Avec dans les rôles principaux, donc Kim Delaney. Bah on parlait de NYPD Blue juste avant. Kim Delaney, c'est celle qu'on voit apparaître dans NYPD Blue dès la première saison, vu que c'est la petite amie de l'inspecteur Kelly. Je donne pas son prénom. Vous verrez ça plus tard. Inspecteur Kelly qui est joué par David Carrizo, bien sûr, dans la première saison de NYPD Blue. Il y a également Catherine Bell qu'on a vu dans Jag, Sally Pressman, Duke Fuller et Esky Brown qui est le personnage masculin. Donc également la participation de Brian McNamara. Cette série est diffusée par TMC à partir de jeudi prochain 20h45. Sinon, le haut du panier, c'est quand même Canal Plus, qui nous habitue maintenant à nous diffuser les saisons qui se détachent un petit peu du lot. Avec, à partir de jeudi prochain, 20h50, Pushing Daisies. Pushing Daisies, les daisies, ce sont les marguerites, hein, en anglais. Et c'est une expression anglaise, hein, he's pushing up the daisies, c'est-à-dire il mange les pissenlits par la racine. C'est comme ça qu'on traduit en français. D'accord. Le pitch est très simple, hein, c'est l'histoire de Ned. Ned qui a la faculté de ramener les morts à la vie pour quelques secondes, rien qu'en le touchant. Mais si dans la minute qui suit, il ne touche pas à nouveau la personne qu'il vient de ressusciter, un autre dans son entourage proche doit mourir. Et si Ned touche à nouveau cette personne, elle meurt de façon définitive.
Il peut ressusciter les gens qu'une minute.
Non, parce que s'il le retouche, il n'y a pas de problème, quoi. Ah. Tu vois, mais
faut pas que l'autre, il se casse, en fait.
Ouais. Alors bon, c'est une arme à double tranchant, quoi. En fait, pour Ned, mais également pour les personnes qui vont être à côté, parce que Ned a appris à jouer avec ce don depuis l'âge de 7 ans, hein, un don qu'il possède, qu'il a découvert depuis l'âge de 7 ans, et parvenu à l'âge adulte ou adolescent, on va dire, eh bien il va essayer de se servir de ce don pour aider la communauté. Pourquoi? Eh bien surtout aider un de ses potes les plus proches qui est inspecteur, qui est détective privé, et donc eh bien ça va être prétexte à résoudre quelques enquêtes criminelles avec espèce de don, parce que c'est sûr que pour trouver l'assassin, c'est plus facile de ressusciter la victime,
d'interroger la victime,
ouais. Que d'essayer de trouver des indices et tout, comme dans CSI.
Donc vous êtes mort. Je suis mort.
Et s'il le touche pas, il se passe quoi déjà? C'est un de ses amis qui meurt à sa place.
Voilà.
Et c'est tout.
C'est tout.
Est-ce que les morts peuvent encore mentir quand c'est un crime passionnel pour protéger le conjoint encore vivant?
Ça, je sais pas. Ça, il faudra jeter un œil sur la série. Alors, c'est interprété par Lee Pates dans le rôle de Ned et Chi McBride. C'est un black un peu enveloppé, hein, qu'on a déjà vu dans d'autres séries, qui interprète le rôle de Emerson Cotts. C'est créé par Brian.
Évidemment, ça se passe que pendant l'enquête, parce que si jamais au tribunal, t'as l'avocat de la défense qui dit. Ah oui, et sur quel témoignage vous êtes basé pour accuser mon client? Ah ben on a le témoignage du mort. Ah c'est bien pratique.
Alors
le client m'avait pourtant bien tué quand même au début.
C'est créé par Brian Fuller, le mec qui nous a déjà fait une série sur les morts, hein, qui s'appelle Dead Like Me, une excellente série, hein, d'ailleurs, avec Mandy Patinkin, entre autres. Vraiment pas mal, hein. Donc il a l'air bien branché de ce côté-là, l'ami Brian Fuller. La série veut aussi pour on va dire son habillage et son esthétique, on va dire un petit peu flower power, quoi, tu vois. Enfin bon, c'est c'est joli, c'est bien coloré, tu vois. On se demande si ça n'a pas été colorisé tellement ça pète, mais bon, ça promet d'être assez intéressant quand même. Donc je rappelle, hein, pour les séries inédites à venir la semaine prochaine, Kane sur Série Club lundi prochain, American Wives ou Army Wives si vous préférez sur TMC jeudi prochain, et jeudi prochain également Pushing Daisies sur Canal+. Maintenant, des inédits également, mais ce sont des séries dont on a déjà vu les saisons précédentes. Avec tout d'abord, alors là, là, je vais être obligé de faire un choix cornélien demain soir pour savoir quelle série je vais regarder. Caville encore, qui s'avère être une série tout à fait sympathique, vraiment, vraiment très très bien. Hein. L'histoire de deux flics à la Nouvelle-Orléans 2 ans après le passage de l'ouragan Katrina, c'est vraiment très très bien, vraiment 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 très très bonne série diffusée sur Série Club tous les dimanches.
J'ai envie de la faire parce qu'il y a nos gonzesses dans le studio, donc j'ai envie de la faire. Tu sais pourquoi on donne des noms des prénoms féminins aux ouragans?
Il n'y a pas que des prénoms féminins. Hein.
Ah oui, non, parce qu'ils sont arrivés à court. Et puis ils se sont rendus compte que les garçons aussi, des fois, ils peuvent être violents.
Non. Alors donc, ce choix cornélien entre Caville et la deuxième saison de Shark. Ah oui, alors là, quand il y a James Woods, on se dit...
Ben, nous, on se disait pareil, et finalement, on a regardé la série, on s'attendait à...
Sur M6.
Soit... Ouais.
En version française.
Ouais.
Eh ben, laisse tomber, t'as tout faux.
Ben oui, mais bon, la série, on a été assez surpris.
C'est nul quand
même,
en français.
C'est quand même une série assez conventionnelle. Puisque...
Ben, c'est très nul en français.
D'accord.
C'est très très nul en français. Là, vraiment,
tu arriveras pas, Thomas.
Non, franchement, j'ai essayé de regarder en français. Tellement la série m'a emballé en version originale, je me suis dit, bon, en français, généralement, si une série t'emballe bien, ça doit passer aussi, quoi. Ben là, non, ça passe pas du tout. Mais du tout, hein. Vraiment. Alors, Shark, donc deuxième saison.
Oui. Ça veut dire que là, en fait, le. Merde, j'ai perdu le film. Le film à penser.
Merci, Sabrina.
Ah, je voulais en profiter pour boire un coup là.
Un point, ouais. Sympa ce genre de petites interruptions.
Voilà. Donc Shark demain soir à partir de 20h50 sur Paris Première, c'est en version multilingue, donc en version originale. Regardez la version originale, ne regardez pas la version française. Voyons, James Woods. Allons. Sinon, inédit également. Là, c'est en version française, c'est normal, c'est sur M6. C'est ce soir. C'est Medium, la saison 4, hein, qui est inédite. Quand M6 fait bien les choses et ne veut pas fâcher le CSA, ne diffuse pas le premier épisode de la saison 4 au début des diffusions.
Non, surtout qu'il passe quand même le message du CSA à propos de la signalétique. Non.
Mais
non,
oui,
non,
mais c'est parce que le premier épisode est un moins 12 et qu'on peut pas passer d'épisode moins 12 à 20h50.
On doit attendre 21h.
Eh ouais. Donc on commence par l'épisode 2. On n'est pas perdant au change vu que la guest star est Angelica Houston. C'est ce soir à 20h50.
Attends, stop, je t'arrête. Si c'est une question de 21h qui commence à 20h50.
Non, 22h. Non, non. Il s'est planté. 22h.
Ouais. Non, c'est 22h30 pour les programmes moins de 16.
Non, moins 12.
Moins 12, pardon.
Moins 12. Hein.
Non, moins 16, c'est après minuit.
Parce que si c'est juste que pour 10 minutes, autant qu'il nous coûte un caméra café, puis basta.
Moins 16, ouais, à partir de 22h30. Hein. T'en as une tapée, hein, des trucs.
Bon, alors, 16, c'est bien ce qui me semblait. C'est à 21h pour les moins 12. Et...
Dans ce cadre-là, qu'ils passent un de leurs trucs qui dure 5 minutes, un Camelot ou autre, histoire de faire patienter.
Attends, maintenant...
Un peu pas.
Tous les autres, ils ont commencé à 20h50. Tu commences le sprint en retard, toi? Ah ouais, mais j'ai fait un meilleur temps.
Hein. Non, je suis désolé, moi je regarde pas.
Alors, sinon, autre série inédite. Alors, à signaler que Shark, hein, c'est la dernière saison. Il y a une saison 2, il n'y a pas de saison 3. Ils ont arrêté. Ça plaisait pas. Donc, on a laissé tomber. Et d'ailleurs, à la suite de l'arrêt de la deuxième saison de Shark, James Woods a été vraiment dégoûté. Et a déclaré qu'il tournerait plus jamais pour la télé. Alors bon, ça c'est vraiment une grosse perte. On a un petit peu les boules et tout.
Mais il a déjà tourné dans des séries avant celle-là.
Avant, oui. Bah il a dans Les oiseaux se cachent pour mourir, des trucs comme ça, quoi. Enfin,
Ça fait longtemps alors.
Ça fait longtemps, il se réjouissait. Puis là, il avait trouvé un personnage
à sa mesure.
Ça pouvait être assez intéressant de voir comment ça se développe.
Ouais, il a pris un coup de vieux quand même, hein, on voit.
Ouais, mais enfin bon, il a quand même la patate. Hein, ça va.
C'est James Woods.
Ouais, c'est James Woods. Alors, autre série dont on ne verra que la saison 2 et après, stop, on arrête les frais, c'est The Riches, sur Canal Jimmy, lundi, vendredi prochain à partir de 23h20. Alors là, ils nous ont trouvé un horaire super sympathique. Merci les gars, sympathique. Ouais, 23h20, Canal Jimmy. Merci. Donc, The Riches, hein, je rappelle, c'est l'histoire d'une famille de de bohémiens, de tziganes, mais côté américain, hein, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux, hein, ce sont des travelers en fait, hein, ce sont des immigrés, la plupart sont irlandais, on va dire, et ce sont des gens qui vivent dans les caravanes aux États-Unis, mais qui se déplacent, hein, comme les Roms, les tziganes chez nous en France ou en Europe. Et au début de l'histoire, le pitch, c'est que bon bah les Richies qui viennent de récupérer leur la mère qui sort de prison, hein, ne vivent que d'embrouilles, d'arnaques, de petites choses comme ça, et arrive un accident de voiture et tout, et décide d'usurper l'identité d'une autre famille, enfin d'un couple qui se rendait justement dans leur nouvelle maison, qui voulait changer de vie, qui se rendait dans leur nouvelle maison, et donc ils prennent tout, leur identité et tout, ils arrivent dans la maison, dans l'endroit où ça se passe, et donc ils vont devoir se fondre dans la communauté qu'ils intègrent, sachant que c'est une communauté qui est quand même radicalement différente de leur standing, de leur façon de vivre. Et donc ça va être l'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est, dans la première saison, c'est qu'on regarde, on assiste à l'adaptation et à la façon dont ils arrivent à masquer leur manque de culture, leur manque évident de repères par rapport à l'endroit et au style de vie qui vont intégrer. Et la fin de la saison 1 laisse présager que ça va assez mal se passer dans la saison 2. Ça a peut-être posé des problèmes aux scénaristes qui dit-on ont pondu une saison 2 un petit peu moins potable que la saison 1, ce qui a valu à la série d'ailleurs d'être arrêtée au bout de la saison 2. Bon, on gâchera pas notre plaisir quand même, hein, vu que on a quand même de très très bons acteurs dans cette série. Mini Driver en tête, hein, la femme là, vraiment vraiment excellente, vraiment excellente, hein, Mini Driver, et l'autre dont j'ai oublié le nom, ça me fait chier parce que il est vachement bien, c'est l'acteur anglais qui casse la baraque et qui là casse un petit peu son style de rôle. On avait l'habitude, c'est un comique anglais, hein, c'est un mec qui fait des
Coogan,
des one, non des one, Eddie Izzard, voilà, j'y suis arrivé,
ah quoi. Oui,
Eddie Izzard, donc qui est plus comique, et là qui est dans un rôle dramatique, mais qui tire son épingle du jeu vraiment honorablement. Vite fait, Underbelly, c'est sur Orange, Cinéchoc, et là c'est une série australienne, hein, inspirée par une enquête de deux journalistes sur la guerre des gangs à Melbourne entre 95 et 2004. Ce sera diffusé à partir de jeudi prochain, 20h40, sur Orange Cinéchoc. À propos de Orange, je vous avais dit qu'il y avait 5 nouvelles chaînes Orange, il y en a une 6e, mais qui est une chaîne thématique sport, c'est Orange Info Sport. Donc rien à voir.
Encore
c'est comme ça. Rien à voir avec les séries, là c'est terminé pour les séries. Rien à voir avec les séries. Il y a peut-être un film à voir. Je vous avais parlé, je vous avais fait la chronique du livre de Joe Boyd qui s'appelle White Bicycle, hein, sur l'histoire de la musique un petit peu dans les années 60 et tout, l'histoire de la vie de Joe Boyd, hein, qui a été un producteur dans l'ombre un petit peu, qui a connu plein de gens et qui a donc, je vous en avais parlé, réalisé un documentaire sur Jimi Hendrix. Ce documentaire est enfin regardable sur une chaîne française. Bon, il va falloir raquer quand même, puisque c'est sur Cinéma Star, lundi prochain à 20h45, ce documentaire de Jimi Hendrix, réalisé donc par Joe Boyd et Gary Weiss en 73, soit peu de temps après la mort de Jimi Hendrix, avec plein d'extraits de concerts, des interviews et tout. C'est vraiment assez intéressant. Passons au quiz à présent.
Ouais.
Alors là, ça va dépoter parce que, à mon avis, vous allez...
sécher comme des merdes.
Les prénoms des détectives inspecteurs dans les séries télé.
Qui tient les comptes?
Alors,
Sabrina.
Allez, vas-y, Sabrina. Alors, on va commencer facile. Kojak.
Mick.
Bold.
Attends.
Bah, Kojak.
Le sucette.
Je sais. Un prénom grec.
Kojakovic,
oui, Terry.
Ouais, mais là c'est le diminutif en
Nikos.
Plus. Hein. Non. Théo.
Théo Kojak. Ouais, mais
Théo. Oh punaise.
Mais ça, oui,
Sabrina,
oui.
Elle le savait, elle avait déjà posé cette question une précédente saison en plus.
Ouais.
Théo Kojak.
Alors ensuite, Manix.
Pochette.
Joe.
Voilà. Ouais. Un point. Alors ça c'est pour Xavier. Là, j'ai dit à Christine, toi, là Xavier devrait trouver Friday dans Dragnet.
Ah merde.
Et il le dit.
Joe.
Voilà.
Encore. Joe.
Okay. Voilà. On va faire dans le culte avec Twin Peaks.
Dale
le...
Cooper. Dale.
Ah bon. Ok.
Fox.
Mulder.
C'est les bouquins.
Ensuite, toujours chez les ricains, Barretta.
Obama.
Interprété par Robert Blake, qui Mick. A des problèmes avec la justice en ce moment d'ailleurs. Tony Barretta. Alors là, Walker Texas Rangers, comme est
John.
Le prénom.
John. Frank.
Bruce.
Ted.
Non, vous trouverez pas, non.
Jean-Claude.
Cordell Walker.
Oh.
Ouais. Alors dans New York District, je les cite pratiquement chaque semaine, vous devez les connaître par cœur. L'inspecteur Logan, interprété par Chris Knott.
Oh merde.
Théo. John.
Non.
Joe, Frank, Robert.
Non.
Tony. Mike.
Mike.
Et son acolyte Briscoe, interprété par le regretté Jerry Orbach.
Mick.
Briscoe, Jerry. Michael.
Il y a du. Lenny. Ensuite, NYPD Blue. Alors, Sipovic.
Andy.
Oui, bien joué. Ensuite, bah, justement, je parlais de David Carrizo qui interprète le rôle de John Kelly. Première saison de NYPD Blue.
John.
Bien joué.
Tu veux le dire.
Et le deuxième partenaire de Sipovic, l'inspecteur Simon, interprété par Dan. Jimmy Smith.
Bah, Jimmy. Non. Ted.
Robert.
Joe.
Mi.
Bobby.
Bobby Simmons, en plus tu le dis tout le temps. Ouais.
Bah ouais.
Merde.
Taggart. Là on va passer
John.
Un peu aux
autres.
Taggart.
Horst.
Non, Horst c'est dans Derrick.
Ouais. Taggart. Fred. Non.
Jim.
Jim Taggart.
Ensuite Miss Marple. Ah.
Sabrina, Chantal.
Oh, punaise.
Christine a dit que c'était facile.
Ah, et...
Françoise.
Rebecca. Non.
Comment t'as dit JB?
Rebecca.
Non. Jane.
Ah, punaise.
Miss Marple. Ensuite, dans Prime Suspect. Dans Prime Suspect, l'inspecteur principal Tennyson, interprété par Helen Mirren. Le prénom.
Harley.
Le même que Miss Marple. Jane.
Jane.
Ensuite, on retourne aux États-Unis. Cagney and Lacey. Cagney, interprété par Sharon Gless.
Alors là.
Chris. Et Lacey, interprété par Tyne Daly.
C'est assez.
Marybeth. Alors là, on va faire dans le. Dans l'européen. Commissaire Moulin.
Thierry. Robert. Michel. François. Mick.
Joe. Moulin.
Jérôme.
Moulin.
Nicolas. Prénom composé.
Jean-Édouard.
Jean-Michel.
Michel-Edouard.
Jean-Patrick. Jean-Pierre.
Jean-François. Jean-Michel.
François-François.
Philippe-Adrien.
Non. Jean-Paul.
Jean-Paul Moulin.
Ensuite, Derrick.
Horst.
Mais non. Mais
ah,
non.
C'est le nom prénom de l'acteur.
Mais non. Hans. Mais non.
France.
Et il le dit, hein, Fritz Wepper, son
Mathias
collègue.
Non.
Il le dit, hein.
Non,
il,
Mathias,
il l'appelle par son prénom. On les voit ceux qui regardent les...
Jürgen.
Stéphane. Ah. Stéphane.
Oh, Stéphane.
Voilà. Et bon, bah, comme vous l'aimez Horst. Bien, le prénom de Chimansky.
Horst.
Détective.
Mick.
Jean-Philippe.
Mais non, Horst.
Ah, merde.
Non, c'est pas vrai.
Maigret. Facile.
Jean. Bruno.
Commissaire.
Non,
Alain. Maigret. François.
C'est pas Jean.
Franck.
Jules.
Jules Maigret.
Et là, le dernier, le plus difficile, parce que.
Pas Colombo.
Harry.
Non, Colombo, qu'on n'ait pas son prénom.
Ah.
je vous l'ai pas fait parce que bon, bah, ça va, quoi. C'est
sur piège.
L'inspecteur Morse. Alors, c'est très difficile, là, vous trouverez
David.
Jamais, de toute façon, quoi. C'est pas la peine. Parce que dans dans la série, l'inspecteur
Joe.
Morse. Il quand on l'appelle souvent dans les épisodes on lui demande oui votre prénom et tout, je n'ai pas de prénom, je m'appelle Morse. Donc on connaît pas son prénom et on connaît son prénom dans le dernier épisode, celui où il meurt, où il dit je m'appelle Morse. Et c'est également le nom. Alors c'est également le nom d'un des bateaux qui est parti aux États-Unis avec des colons. Mais c'est pas le Mayflower.
Le Bounty.
Non.
Bounty mort.
Non, le Bounty c'était
Endeavour. Il fallait le trouver. Un dé ou morse. Il faut dire qu'avec un nom comme ça, ça
bon,
va.
Bon, le décompte final.
Eh ben.
Alors le décompte. Ah, je pense que Thomas est pas mauvais là.
Alors, oula. Alors pour.
Là, sans contestation, c'est toi du sport qui gagne plein pot. Je t'ai compté, hein.
Oui, enfin disons qu'il y a eu plus de questions non répondues. alors ouais, Duce, donc
Xavier 1.
Ouais.
JB 2.
Thomas
3.
Non.
1 2 3. Ah, c'était JB ça.
Eh ben ça fait un chouette score. Et voilà. C'est
on en gagne quoi?
Eh ben il y a du sport qui
les
fait
bretzel.
Le
hein
ex aequo ou quoi?
Je sais pas.
Je sais pas, mais en tout cas on a gagné une fin. JB.
Oui.
Du coup,
faut que je file.
Bah, tu fais pas la fin alors.
Ah, bah, donne-moi le script là, hop.
Donc, pour tous ceux qui donc ont pris l'émission numéro 178 de l'émission Thomas. Indigeste, JB, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris
mais
l'émission
c'est pas Indigeste.
Non, et non, c'est le supplément week-end qui a battu Indigeste.
Ah, et... Voilà, donc Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, Xavier a confondu Balma et la Belge dans la bande-annonce. Je me suis planté moi-même sur un sketch écrit à l'avance. On a eu des invités très spéciaux, Sébastien et Rafi du Toulouse Game Show. On a eu la diffusion de l'interview de l'équipe de Nerds. Quasi au complet, c'était 3. Une descente en flèche de Maxou. Sabrina a demandé le micro et a perdu le fil. Et on a eu un putain de quiz super dur du sport sur les prénoms des flics.
Nom d'un prénom de David Morse qu'on ne sait pas son prénom. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.tk.
.fr.
.tk.
.fr.
Pour les tout nouveaux, parce qu'il vient juste de sortir. Il a
enfin,
été refait.
Vous retomberez dessus, voilà. De toute façon, par le jeu des ping-pong, mais ce serait plus simple par .fr, sinon sur le site de la radio.
Top. Vous écoutez donc FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net dans le prochain épisode.
Et ben on est en direct du Toulouse Game Show. Là il est 14h, 16h, 13h57 minutes, c'est le nouveau record de débordement. Voilà, hein, c'était 1 heure, c'est 1 heure normalement la durée normale de l'émission. Là on en est à 1h57 minutes et 15 secondes. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence à la Belge. On sera en direct sur la fréquence de Radio FMR. Et toutes les infos, toutes vos questions, tous vos quiz et toutes vos conneries, www.supplementweekend.fr ou sinon sur le site de la radio, radio-fmr.net. Merci à vous.
Merci de nous avoir suivis.
Merci à toute l'équipe de m'avoir énormément soutenu depuis tout ce temps. Thomas, du sport, JB, Sabrina, Chantal et tous les autres.
Tu vas partir la semaine prochaine, c'est ça ?
Ben non, mais ça fait un petit peu spécial, voilà. Donc on reste derrière, hein. De toute façon, je vous laisse avec du sport qui du coup se fait complètement déborder. Voilà, ciao, bye.